télé, radio et digital. Good Morning Business. Stéphane Pedrazzi.
Il est 6h59, bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, la France confrontée aux restrictions d'eau. 93 départements font aujourd'hui l'objet d'interdictions, y compris pour l'arrosage des cultures. Certains exploitants, malgré tout, ont choisi de braver l'interdiction face au risque de pénurie alimentaire. On en parlera avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Elle sera mon invitée tout à l'heure à 8h15. Du côté des fabricants de piscines, ils refusent d'être les boucs émissaires face à la sécheresse. On en parlera avec la déléguée générale de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Elle sera avec nous en plateau dans un petit quart d'heure. L'Europe se prépare à une crise énergétique sans précédent pour l'hiver prochain. Va-t-on manquer de gaz et d'électricité? Les délestages sont-ils inévitables? La crise va-t-elle accélérer la transition écologique? On en parlera avec le directeur général de Voltalia, Sébastien Clerc. Il sera avec nous à 7h45. Et puis, on s'intéressera au groupe de luxe Richemont. Il est désormais sous la pression des actionnaires activistes. Il réclame un changement de stratégie et de gouvernance. Richemont possède notamment les marques Cartier, Montblanc et Lancel. Les géants français du luxe sont à l'affût. C'est ce que nous expliquera Mathieu Pechberti tout à l'heure dans le journal de 7h30. Très bon réveil, soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h. Et on fait un premier point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Bonjour Claire.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
La canicule qui dure depuis le début du mois doit en principe atteindre son pic vendredi.
Ah oui, une vague de chaleur qui touche toute la France, à quelques rares exceptions le long de la Manche. 93 départements sont en restriction d'eau, les deux tiers sont dans une situation critique. On tente d'économiser l'eau partout, mais Sofiane Aklouf, je me tourne vers vous. Qui en consomme le plus?
Alors là, on parle de l'eau consommée, c'est-à-dire celle qui n'est pas restituée dans les milieux aquatiques une fois utilisée, contrairement à l'eau prélevée. Les volumes annuels d'eau consommée, il est estimé à 5,3 milliards de mètres cubes en France métropolitaine, ce qui représente 82 mètres cubes par habitant. Un volume qui est inéquitablement réparti entre les activités. La plus consommatrice, et de loin, c'est l'agriculture, avec 45% du total, devant le refroidissement des centrales électriques pour 31%. Plus étonnant, seulement 20% de l'eau potable en France est destinée à la population, pour notre usage quotidien. Viennent ensuite les usages industriels pour 3 à 4% du total.
L'agriculture consomme une part importante, Sofiane. À quoi sert-elle cette eau potable concrètement?
Alors avant tout, à irriguer les cultures. Là encore, toutes ne sont pas aussi hydrovores. Le maïs est largement en tête, avec 41% de la consommation, loin devant les autres céréales, comme le blé. Les fruits et légumes sont loin derrière, là encore, avec 13%. Mais cette eau potable, elle sert aussi, on le sait, à alimenter le bétail et dans une moindre mesure à assurer l'entretien des bâtiments.
Et en ce qui concerne notre consommation domestique, Sofiane, il y a un chiffre à retenir, c'est qu'on consomme 148 litres d'eau par jour et par personne.
Oui, ce qui fait 329 litres d'eau par foyer et par jour, selon l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Et dans la très grande majorité, cette utilisation est liée à l'hygiène. Dans le top 3, les bains et les douches, les sanitaires et dans une moindre mesure, le lavage du linge. L'alimentation arrive loin derrière. Et maintenant qu'on connaît les chiffres, il reste une question. Qui doit faire des gestes pour parvenir à une sobriété hydrique?
Et justement, c'est la question ce matin. Tout le monde se renvoie la balle quand il s'agit de faire des économies. On parlera tout à l'heure à 8h15 à la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert. Elle nous expliquera pourquoi c'est compliqué pour les agriculteurs. Et puis on parlera des piscines. Les piscines qui, évidemment, sont toujours très nombreuses en France. 3 millions d'eux en fin d'année. Ils refusent d'être les boucs émissaires. On verra pourquoi juste après ce journal.
Et Stéphane, on vient de le voir, l'activité la plus gourmande dans nos c'est l'agriculture, vous en parlerez justement. Et la sécheresse fait craindre le pire pour nos stocks alimentaires, mais aussi pour les éleveurs. La FNSEA alerte, on pourrait manquer de lait à l'automne et certains producteurs risquent de se retrouver en très grande difficulté en cause. Le fourrage, moins de 10% des récoltes sont irriguées. Or sans fourrage, impossible de nourrir les bêtes, Laura Combeau.
La sécheresse frappe de plein fouet les deux composantes essentielles du fourrage, l'herbe et le maïs. Leur croissance s'est stoppée très tôt. Michel Moquet, spécialiste de l'Institut agricole Arvalis, prévoit déjà une année catastrophique.
Sur la partie production d'herbe au printemps, globalement, on parle de moins 20, de moins 30% par rapport à une année normale. Et sur le maïs, depuis maintenant une quinzaine de jours, on a déjà eu des premières récoltes, ce qui est quand même exceptionnel pour cette culture, où les chantiers se déroulent plutôt on va dire fin août, début septembre d'habitude.
La majorité de la production est destinée à l'alimentation des animaux. Seulement les prés ont brûlé et les stocks de fourrage pour l'hiver sont déjà entamés depuis juin. Les éleveurs vont donc devoir en acheter. Or, avec la guerre en Ukraine, les cours des céréales n'ont jamais été aussi élevés. Plus de 300 euros la tonne de maïs en ce moment.
Les éleveurs seront peut-être obligés de vendre une partie de leurs animaux hein, pour pouvoir passer cette période difficile. Donc ça peut avoir des répercussions sur la production laitière. Ça peut avoir des répercussions aussi sur le marché de la viande.
Pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, les éleveurs devront s'adapter, notamment en changeant leur production et en adaptant le calendrier des récoltes.
Avec la fin de la pandémie, il semblerait clair qu'on soit revenu à des modes de consommation un peu plus traditionnels.
Ah oui, le e-commerce s'en ressent et dans son sillon, les entrepôts qui attirent de moins en moins les investisseurs. Ce marché qui a explosé avec la crise Covid commence à donner des signes de faiblesse. Selon des chiffres compilés par le Financial Times, la demande ralentit et les prix baissent. Caroline Morisseau.
Éclatement d'une bulle ou simple ralentissement du marché, c'est en tout cas la fin d'une période d'euphorie sur le marché des entrepôts. Depuis quelques années, les investisseurs se sont en effet rués sur ces biens qui avaient tout pour attirer. Une forte demande liée au boom du e-commerce, alors qu'à l'inverse, les bureaux et les magasins étaient désertés pendant la crise Covid. Tout cela dans un contexte de taux bas. Seulement voilà, depuis quelques mois, la donne a changé. Le commerce en ligne ralentit, les taux remontent et font baisser le rendement locatif. Tout cela se ressent déjà sur le prix des entrepôts. Ils ont perdu 5 à 10% sur l'ensemble de l'Europe depuis le début de l'année. Au Royaume-Uni, où le marché est particulièrement développé, on est même sur 10 à 20% de baisse. Pour certains analystes, c'est une simple correction et le marché a encore de belles perspectives. Car si la demande ralentit du côté du commerce en ligne, les commerces traditionnels pourraient bien prendre le relais face aux pénuries et à la hausse du carburant. De plus en plus cherchent en effet des entrepôts pour stocker leurs marchandises au plus près de leurs clients.
Il est 7h06, on va vous parler d'un produit de saison, la glace, et on va vous parler précisément du procès intenté par Ben & Jerry à sa maison mère Unilever, le fabricant de glace donc bien connu pour ses prises de position.
Ah oui, fin juillet, la marque défendait sur son compte Twitter une taxation des super profits avec ces termes crus. Les profits des compagnies gazières sont immoraux et contraires à l'environnement. Plutôt, le groupe défendait le droit à l'avortement, mais sa maison mère ne suit pas forcément ses prise de position. Unilever veut vendre l'activité de Ben & Jerry's en Israël. Ce dernier s'y oppose. La justice américaine doit se prononcer aujourd'hui. Virginie Cook.
Pour comprendre les raisons de ce bras de fer, il faut revenir un an en arrière. L'été dernier, Ben & Jerry's, connu pour ses engagements en matière d'écologie ou de respect des droits de l'homme, prend une décision très médiatisée, ne plus vendre ses glaces dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. En réponse, il y a 2 mois, la société mère Unilever décide de céder la branche israélienne de Ben & Jerry's à Avi Zinger, le détenteur de la licence locale. Une opération qui permettrait de redémarrer l'activité dans les colonies israéliennes. Mais pour la marque, cette cession menacerait son intégrité et sa réputation qu'elle a mis des décennies à construire. Pour bloquer la vente, Ben & Jerry's a donc porté l'affaire en justice. Cette bataille met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui prennent position sur ce sujet. Il y a 3 ans, Airbnb avait arrêté de louer des logements dans les colonies israéliennes avant de revenir sur sa décision.
Dans l'actualité internationale, la Chine utilise ses exercices pour préparer une invasion de Taïwan, affirme le chef de la diplomatie de l'île. Taïwan qui réplique et entame cette nuit un exercice de défense à balles réelles. Un deuxième est prévu jeudi. Les deux entraînements doivent provoquer le déploiement de plusieurs centaines de soldats et d'environ 40 obusiers. C'est ce qu'a indiqué l'armée taïwanaise, même si Taipei assure que tout était déjà programmé et qu'il ne s'agit pas d'une réponse aux manœuvres militaires de Pékin. Dans l'actualité également, la Russie lance un satellite iranien d'observation, départ prévu depuis la base russe de Baïkonour au Kazakhstan à l'aide d'une fusée Soyouz. Ce satellite a officiellement pour but de surveiller les frontières du pays, mais aussi d'améliorer la productivité agricole et de contrôler les ressources en eau. Les États-Unis y voient des fins militaires et suspectent Moscou de vouloir l'utiliser pour sa guerre en Ukraine. Autre inquiétude pour les Américains, relayée par le Washington Post, la Russie envisagerait d'utiliser le satellite pendant plusieurs mois dans le cadre de son offensive en Ukraine, avant d'en céder le contrôle ensuite à l'Iran. Information démentie par Téhéran.
Merci Claire, on se retrouve tout à l'heure à 7h30 pour le prochain journal. 7h09, les marchés financiers. Antoine Larigaudry en direct du siège d'Euronext à La Défense. Bonjour Antoine, on dirait que les marchés ont célébré votre retour hier.
Bonjour Stéphane.
Belle séance pour le CAC. Petite consolidation à prévoir aujourd'hui en revanche.
Oui, on a bien redépassé les 6500, on revient sur des plus hauts qui nous ramènent à début juin. Honnêtement, bon, il n'y a pas de grande conviction, les volumes restent faibles. Hein, volume de saison à 2,3 milliards hier sur le CAC, c'est vraiment tout petit. Mais au milieu de tout ça, commence à émerger une tendance plutôt positive. Et d'ailleurs, du côté des marchés américains, même si le score était un petit peu moins flatteur en clôture hier soir, avec une petite baisse du S&P 500, des indicateurs mitigés et un petit sentiment de flottement, il y a un petit débat qui commence à émerger. On est encore dans un bear market, clairement. Mais est-ce que ce rebond auquel on assiste est un bear market rally, donc en gros un petit rebond de court terme dans un marché baissier, ou est-ce qu'on est en train de sortir un peu de la spirale négative? Très difficile à dire pour le moment, tant il y a peu de convictions affichées et peu de participants sur le marché en ce moment, mais la question se pose. Indicateurs américains encourageants, notamment ceux de l'emploi, est-ce que la récession qu'on craint sera finalement une sorte de micro-épisode plus court que prévu? Les résultats d'entreprise sont restés quand même encourageants. Bref, une brise d'été plutôt positive qui règne en ce moment, et pas trop de pression à la baisse du point de vue de la tendance. En Asie ce matin, c'est mitigé, mais il n'y a pas d'inflexion baissière très nette pour le moment. Donc pour le CAC 40, sans doute un petit peu de consolidation à prévoir en début de séance, mais rien de bien grave. Et surtout, on devrait tenir le cap des 6500 dans un premier temps.
Un mot des autres marchés, Antoine, avec une détente qui semble confirmée sur l'obligataire.
Oui, alors quelques points de base, mais c'était assez net hier. Partout, des niveaux importants sont décrochés. 1,5% sur la dette française 10 ans, les 0,9% sur le Bund allemand et les 2,8% sur la dette américaine. Clairement, la détente prévaut et ça, c'est plutôt pas mal. Ça donne du carburant aux actions. En revanche, on l'a vu, ça a provoqué une certaine pression à la baisse sur le secteur bancaire avec des prises de profit à la clé. Mais enfin, là encore, rien de bien méchant. Le pétrole aussi, là aussi, détente marquée qui se confirme. Moins de 100 dollars sur le Brent et 90 sur le WTI. Alors attention, ça tendance à un petit peu remonter à court terme ce matin, mais ça c'est plutôt un signal encourageant aussi pour les actions. Et puis à noter sur l'échange, l'euro-dollar, qui donnait des signes plutôt positifs hier pour essayer de remonter à 1,02, on a échoué à tenir le niveau hier, mais ça frétille à nouveau ce matin, peut-être une deuxième chance pour aujourd'hui. En tout cas, les signaux techniques remontent.
Merci beaucoup Antoine, on se retrouve juste après le journal de 7h30, on parlera des crypto-monnaies. Il est 7h11 sur BFM Business et RMC Découverte.
Télé, radio et digital. Good morning business.
Ça ne vous aura pas échappé, la France traverse un épisode caniculaire et de sécheresse sans précédent. Le remplissage des piscines, entre autres, fait l'objet désormais de restrictions. On va en parler avec Joël Pulinx-Chalet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Vous refusez, vous, d'être l'un des boucs émissaires dans le débat actuel sur la consommation d'eau. Selon les professionnels du secteur, les bassins privés en France ne consomment que 0,12% de l'eau utilisée en France. Ça paraît extrêmement peu.
Ça paraît peu et pour autant, c'est le calcul qui a été fait de manière très précise sur la base de l'ensemble du parc de piscines. On sait qu'une piscine, en moyenne, ça consomme 15 mètres cubes d'eau, ce qui correspond en gros à l'utilisation de l'eau pour fabriquer deux paires de chaussures ou un kilo de viande de bœuf à peu près, donc pour remettre tout ça dans le contexte. Et ces 15 mètres cubes-là sont utilisés la plupart du temps en hiver quand on fait l'hivernage. C'est le premier remplissage du bassin qui est le plus important, bien entendu, puisqu'il faut la remplir une fois, cette piscine, mais on ne va jamais vider les piscines ensuite. Mmh. Parce que vider une piscine, c'est endommager sa structure aussi.
Mais est-ce que ce chiffre, il intègre l'usage de la piscine? On sait qu'il y a beaucoup d'évaporation, surtout lorsque les températures sont élevées. Il y a aussi la douche, généralement, qui va avec les piscines. Il y a le nettoyage des filtres.
Alors, ça comprend non pas la douche, mais le nettoyage des filtres, effectivement, et aussi le fait de compléter le niveau d'eau par l'évaporation, mais on a des moyens de limiter très largement cette évaporation en mettant une couverture de piscine.
Certains appellent à limiter le nombre de piscines en France. Si toutes les maisons individuelles avaient un bassin privé, on serait sur des chiffres évidemment beaucoup plus élevés.
Sans doute, je n'ai pas fait le calcul, mais effectivement, on utiliserait sans doute plus d'eau. Après, un propriétaire de piscine, il va augmenter sa consommation d'eau de sa famille de 10%.
Ouais. On a l'impression que le débat est en train de se tendre, évidemment, depuis quelques jours, avec les restrictions, les efforts qu'on demande un petit peu à tout le monde. Les agriculteurs dénoncent, eux, par exemple, l'arrosage des stades de foot, qui est extrêmement gourmand en eau. Les piscinistes, eux, parlent de l'arrosage des jardins, des pelouses. Vous comparez avec la production de viande de bœuf. C'est difficile de quand on parle des restrictions, de parler d'une seule voix et de tous faire des efforts?
Je pense que tout le monde fait des efforts, très honnêtement, dans tous les domaines. Et nous, on n'a pas focalisé l'utilisation de l'eau sur d'autres usages de l'eau. Simplement, comme on sait que, d'un point de vue de l'image de la piscine, souvent, on nous prend comme bouc émissaire parce que, effectivement, la piscine a une certaine image ou avait une certaine image. Aujourd'hui, attention, la piscine s'est largement démocratisée. Et la piscine, c'est la piscine de monsieur tout le monde. On a plus d'un quart des possesseurs de piscine qui sont des ouvriers, des employés, etc. Donc, le fait de dire j'ai une piscine, je suis riche, etc., non, ça n'est plus vrai. Et on n'est plus sur une piscine des années 90 où il y avait 73 mètres cubes d'eau à l'intérieur. Aujourd'hui, on est sur des piscines plus petites, moins profondes, qui ne comportent que 43 mètres cubes d'eau en moyenne.
Alors les chiffres vous donnent raison. Le marché des piscines se porte extrêmement bien. Le palier des 3 millions de bassins privés a été franchi l'an dernier en France, 3,2 millions exactement en fin d'année. La France est le premier pays d'Europe en matière de piscine et le deuxième au monde derrière les États-Unis. Comment est-ce qu'on explique ce succès français ?
Alors, ce succès français, il s'explique parce que historiquement aussi, finalement, les précurseurs du marché de la piscine en France sont venus des États-Unis dans les années 60 pour construire des piscines familiales. Et surtout, je pense que les Français adorent les loisirs de l'eau, que ce soit à la mer, en rivière, dans les piscines. On voit que finalement, la majorité des Français aiment aller à l'endroit où il y a de l'eau pour profiter de la baignade, que ce soit dans tous les domaines. Et on voit que les Français, parfois, ils vont choisir un hôtel, un camping, parce qu'il y aura une piscine, même s'ils ne vont pas l'utiliser. Mais l'idée de dire « je vais pouvoir profiter des loisirs de l'eau », ça leur fait extrêmement plaisir. C'est culturel chez eux, ils ont vraiment cette appétence.
Est-ce que les professionnels du secteur arrivent aujourd'hui à répondre à la demande ? On sait que parfois, il y a beaucoup, beaucoup de temps d'attente.
Oui, alors il peut y avoir du temps d'attente parce qu'effectivement les carnets de commandes sont relativement pleins, même si cette année le marché s'est consolidé à un niveau très élevé, puisque l'an dernier c'était une explosion du marché. On a besoin de recruter, d'avoir de la main-d'œuvre. Donc pour ça, on travaille, on a des écoles de formation. Donc on peut faire aussi un appel pour que des jeunes viennent vers les métiers de la piscine. Ce sont des métiers porteurs d'avenir, c'est important de le savoir. Et puis, effectivement, je pense que les carnets de commandes sont pleins chez les piscinistes parce que ce sont des professionnels sérieux qui sont formés, informés par notre fédération notamment, et qui, de ce fait, engrangent des commandes. Après, pour le particulier qui veut se baigner plus rapidement en attendant sa piscine enterrée, il peut toujours investir dans une piscine hors sol.
Vous parliez de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a aussi des pénuries de matières premières. Ça concerne les piscinistes ?
Alors, ça a concerné quelques piscinistes, sachant que quand même la majorité des piscinistes et des fabricants de matériel de piscine en France ont une production en Europe. Donc on n'a pas été trop impacté, en tout cas par ce qui concernait les containers qui viennent de Chine, etc. Donc on a été relativement limité, même si effectivement il y a eu des hausses sur les matières premières, comme dans le domaine du logement ou de la construction.
Alors on a parlé de la consommation d'eau. Comment est-ce que les piscines peuvent être aujourd'hui plus écologiques ? Il y a la question de l'eau, mais pas uniquement. Il y a aussi la question de l'énergie pour les piscines qui sont chauffées, et aussi l'utilisation de produits chimiques, comme le chlore.
Oui, tout à fait. Alors, en ce qui concerne les innovations dans le domaine de la piscine, il y a un phénomène très important, c'est le phénomène de l'automatisation des bassins. Avec l'automatisation des bassins, on va limiter la consommation d'énergie, puisque la pompe de la piscine va tourner uniquement le bon nombre d'heures ou de minutes. On va limiter la consommation d'eau parce qu'on va laver le filtre uniquement lorsque ce sera strictement nécessaire. Et aussi, on va mettre dans le bassin uniquement la bonne dose de produit de traitement de l'eau. Le produit de traitement de l'eau, vous parlez du chlore, puisque effectivement, c'est ce qui est le plus utilisé.
Il y a aussi du sel, de l'ozone, il y a plein d'alternatives aujourd'hui.
Oui, alors le sel, effectivement, l'électrolyseur au sel, il est très très demandé et utilisé, puisqu'on va mettre du sel dans sa piscine, il va se transformer en chlore par la cellule d'électrolyse, et il va se transformer ensuite en sel. Effectivement, c'est énormément utilisé et tous ces systèmes automatisés vont permettre d'utiliser la juste dose de produit. Quand même, il est important de rappeler que le traitement de l'eau dans une piscine, c'est 80% de la filtration et seulement 20% de produits de traitement de l'eau.
Il y a aussi d'autres tendances. Les bassins sont plus petits, vous l'avez dit. Des systèmes d'automatisation pour limiter l'évaporation.
Oui, alors surtout pour limiter l'évaporation, c'est surtout l'utilisation d'une couverture de piscine ou d'un abri de piscine. Mais effectivement, dès qu'on couvre le bassin, on limite très très largement l'évaporation. À tel point qu'on est en train d'élaborer une norme européenne sur justement les impacts environnementaux des piscines familiales. Et on s'est rendu compte en élaborant cette norme que la couverture, c'était vraiment un système clé dans ces économies.
Un dernier mot sur le budget. Les prix ont beaucoup augmenté.
Alors, les prix ont un peu augmenté cette année, mais le prix moyen d'une piscine qui sort d'une étude consommateur qu'on a faite cette année, hein, on est sur une moyenne de 17 000 euros sans équipement particulier et plutôt autour de 21 000 à 22 000 euros, une piscine qui serait un peu plus équipée. En moyenne, c'est ce que nous déclarent les consommateurs. On a tendance à penser que cette année, ça a pu monter autour de 24 000 euros en moyenne, mais 24 000 euros, c'est le prix d'une automobile.
Merci beaucoup, Joël Pulinx-Chalet, délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. On marque une pause juste après, on parlera d'un autre sujet lié aux vacances. Prendre l'avion pour partir en vacances, sachez qu'on peut désormais remplacer une partie du kérosène par de l'huile de friture. C'est ce que nous expliquera Anthony Morel et Fred Simotel dans Culture Geek, à suivre donc sur BFM Business et RMC Découverte.
BFM Business, les chroniques de l'été, Culture Geek, Frédéric Simotel, Anthony Morel.
Salut Fred.
Salut Anthony.
Bon, on part en voyage, on part en avion, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui se sentent coupables de prendre l'avion, ça pollue évidemment, et tu nous dis que ce sera peut-être un peu moins le cas dans les années qui viennent parce que on voyagera dans des avions dont les moteurs fonctionneront avec de l'huile de friture.
Ouais, si vous faites des frites, ben, conservez bien cette huile, ça pourra servir. C'est vrai que quand on voit le rapport du GIEC, hein, qui nous dit, voilà, on consomme beaucoup trop et puis le secteur du transport doit vraiment faire de gros efforts, et puis on a parfois un peu de scrupules à prendre l'avion. Et donc, tous les avionneurs, hein, ils sont tous en train de réfléchir à de nouveaux biocarburants, notamment l'huile de friture. Et ces biocarburants, c'est important parce que ça permet d'économiser, enfin, c'est 80% des émissions de gaz en moins que du kérosène habituel. Donc, ça vaut le coup quand même de faire des recherches autour de tout ça. Airbus a déjà fait voler un avion entre Toulouse et Nice. Ils ont fait d'autres expérimentations avec un A350, un A319neo. Et faire voler un avion à la friture, bah on imagine, voilà, on est vraiment dans l'axe du GIEC, neutralité carbone pour 2050. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder le même moteur, donc il y a quand même c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, cette huile de friture, elle va être conservée, elle va être utilisée pour tout, pour des déchets, et justement là.
Donc en fait, on l'aurait jeté de toute façon. Donc si on peut s'en servir, c'est aussi bien. Mais enfin, excuse-moi, c'est peut-être une question naïve, mais il va falloir quand même manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de frites pour alimenter tout le trafic mondial.
Oui, c'est pour ça que alimenter, changer tout le kérosène, c'est évidemment un peu totalement irréaliste. C'est une technologie intéressante sur le papier. Mais déjà, il y a le prix. Le prix, c'est 4 à 5 fois plus cher que le kérosène classique. Et puis, la quantité qu'on peut produire, comme tu l'as dit, on va pas aller faire le tour de tous les restaurants. On imagine la logistique pour aller rechercher toute cette huile de friture. Mais on estime quand même que d'ici à 2025, on produira 1 à 3 milliards de litres de biokérosène, ce qui correspond quand même à 1% de la consommation mondiale. On va essayer d'avancer comme ça, 1%. 2%, 5% pour aller vraiment vers cette neutralité carbone. En tout cas, tout ça s'appelle les Sustainable Aviation Fuel. Donc, il y a vraiment une forte recherche dans ce domaine.
C'est intéressant parce que, comme tu le dis, ça va être 1%, 2%, 5%. Ça ne va pas tout remplacer, mais cumulé à d'autres solutions, ça pourrait être très intéressant. Et il y a une autre solution dont on parle beaucoup,
C'est l'avion à hydrogène. Moi, j'y crois beaucoup, j'y crois plus. Je crois aux camions à hydrogène et aux avions à hydrogène. Alors, bien sûr, c'est pas pour un A380, c'est pour des avions des petits porteurs. Mais on voit beaucoup, beaucoup de choses qui. Et alors là, il faut tout changer dans l'avion. Il faut changer le moteur parce que c'est une autre technologie. Il faut changer aussi la façon dont on va stocker cet hydrogène quand on va s'envoler. Aujourd'hui, le kérosène, on le met dans les ailes.
On voit des concepts derrière toi qui sont incroyables.
Là, il faut 4 fois plus de réservoirs pour stocker cet hydrogène. Et puis, mais en tout cas, l'importance de développer un peu tous ces éléments qui, mis bout à bout, on aura, selon les distances, selon l'usage de l'avion, on aura cette huile de friture, on aura d'autres biocarburants ou alors ces avions à hydrogène.
Merci pour toutes ces solutions, Fred. On est prêt à décoller. À plus tard.
BFM Business, les chroniques de l'été.
On va vous parler de Huawei, l'équipementier télécom chinois qui a recruté le mathématicien français Laurent Laforgue. Vous allez le voir, c'est une décision qui est très loin d'être anecdotique.
Good morning business, le monde qui bouge.
Les coulisses et la stratégie derrière ce recrutement, il permet notamment à l'équipementier chinois de s'affranchir un petit peu du pouvoir politique chinois. Les explications de Benaouda Abdedaïm.
Une immense référence des mathématiques françaises, Laurent Laforgue, travaille pour Huawei, le plus important équipementier technologique de Chine. Le lauréat 2002 de la médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel dans cette discipline, a rejoint son équipe scientifique en septembre dernier. Les médias économiques et scientifiques chinois lui ont fait un accueil particulièrement enthousiaste. L'un d'eux expliquait qu'il est là pour contribuer à résoudre le plus grand problème mathématique du siècle. Les échanges tels qu'ils sont rapportés ont commencé en 2017 avec un projet autour d'une théorie fondamentale. Puis, deux ans plus tard, le professeur Laforgue est devenu le premier titulaire de la chaire Huawei de géométrie algébrique à l'Institut des hautes études scientifiques au sein du campus de Paris-Saclay, un pôle universitaire français considéré par un classement chinois comme l'un des meilleurs au monde. Le travail tourne autour de concept dit des topos, qui fait partie de la théorie générale des réseaux de neurones profonds, des algorithmes inspirés par le cerveau humain. D'après le chercheur, cela peut être utilisé, entre autres, pour servir l'architecture informatique de l'intelligence artificielle et développer des systèmes automatisés afin d'aider les mathématiciens. Laurent Laforgue a déclaré ainsi que rejoindre l'entreprise était un voyage pour explorer un nouveau monde. Et un éditorial à Shanghai a souligné que ce mathématicien français a constaté que Huawei dispose d'une pensée stratégique difficile à atteindre dans les milieux universitaires. Une publication scientifique chinoise explique que l'apport de l'universitaire entre dans une stratégie d'attraction des talents internationaux de classe mondiale dès lors que Huawei, sous la défiance permanente des États-Unis, se trouve dans une période critique à la fois de survie et de développement. Son fondateur a parlé d'oser ouvrir son esprit pour attirer les meilleurs et s'émanciper, je cite, davantage. À cet effet, il met en avant que 20 à 30% des 15 à 20 milliards de dollars de dépenses annuelles en recherche-développement sont consacrés à la recherche fondamentale. Mais ce groupe chinois que les États occidentaux perçoivent comme intimement lié au pouvoir politique et militaire à Pékin redoute de ne plus pouvoir recruter autant de scientifiques internationaux qu'il laisse compte. Lors de sa dernière conférence annuelle, Huawei a alors caractérisé son risque majeur, celui d'une démondialisation.
Le monde qui bouge tous les matins avec Benaouda Abdedaïm. Il est 7h30. On fait un nouveau point sur l'actualité avec Claire Sergent et on s'intéresse, Claire, au monde du luxe. Cartier, Montblanc, Lancel, ce sont des marques détenues par le Suisse Richemont et il fait l'objet de pressions de la part de fonds activistes.
Oui, le groupe suisse a refusé d'accueillir à son conseil un représentant du fonds Bluebell et plusieurs autres fonds activistes font pression pour un changement de stratégie et de gouvernance. Et le français Kering, très intéressé, suit le dossier de près. Mathieu Pechberti.
Le groupe Richemont est cerné de tous les côtés. Depuis un an, plusieurs fonds activistes sont entrés à son capital. D'abord, le géant américain Third Point, connu pour avoir secoué Nestlé et Shell. Puis, Artisan et Bluebell, plus connu pour avoir renversé l'ancien patron de Danone, Emmanuel Faber. Cette fois, il cherche à faire sauter le verrou de Richemont. Son patron, Johan Rupert, contrôle 51% des droits de vote avec seulement 10% de son capital. Âgé de 72 ans, il n'a pas non plus de plan de succession et son fils ne semble pas disposé à prendre la suite. Les fonds activistes veulent remettre à plat la gouvernance et pousser à un rachat de Richemont. Le français Kering n'a jamais caché son intérêt et les investisseurs rêvent d'un mariage entre leurs marques phares Cartier et Gucci, mais Johan Rupert a déjà refusé une fusion avec le groupe de la famille Pinault. Les fonds activistes vont continuer à se battre pour s'imposer dans les instances de gouvernance de Richemont. Ils espèrent fédérer des grands investisseurs institutionnels lors de l'Assemblée Générale du groupe le 7 septembre à Genève.
Les conséquences parfois inattendue de la crise dans le secteur de l'énergie. Ça concerne cette fois-ci un fabricant de flacons pour l'industrie des parfums, Claire.
Ah oui, c'est un fleuron de l'industrie allemande. Il fournit notamment L'Oréal et il risque aujourd'hui de mettre la clé sous la porte. Heinz Glass, né en 1622, fournit les plus grands parfumeurs du monde. Mais aujourd'hui, la grave crise gazière que traverse l'Allemagne pourrait bien lui être fatale. Virginie Cook.
Ici, dans la vallée du Ver du Rheinsteig, Heinglass fabrique des flacons depuis 400 ans. 13 générations se sont succédées à la tête de l'entreprise familiale qui a survécu à toutes les guerres. Mais aujourd'hui, elle est en danger. Pour façonner le million de flacons de verre qui sort chaque jour de ses usines, le groupe doit fondre les matières premières à 1600 degrés. Ces usines allemandes ont donc besoin massivement de gaz. Mais avec la guerre en Ukraine, les prix ont explosé, comme l'explique Murat Agak, le vice-président de l'entreprise.
Und nach dem Après le début du conflit en Ukraine, les prix du gaz ou de l'énergie ont parfois été multipliés par 10 par rapport à 2019, voire par 20, ce qui est très volatile mais beaucoup trop élevé et difficilement tenable économiquement.
Mais au-delà du prix exorbitant du gaz, une autre épée de Damoclès menace l'entreprise, l'arrêt total des livraisons du gaz russe. Hensglass a investi dans une cuve de stockage de gaz liquéfié, mais l'approvisionnement coûtera 3 fois plus cher et ne suffira pas. Sur le long terme, l'entreprise souhaiterait convertir ses fours à l'électrique.
Mais pour cela, des investissements sont nécessaires. Dans notre cas, nous parlons d'environ 50 millions d'euros, ce que nous ne pouvons pas assumer seuls, ce n'est pas possible. Nous avons donc besoin du soutien du gouvernement fédéral et du gouvernement du Land.
Si Hensglass n'obtient pas d'aide de l'État allemand, l'entreprise menace de délocaliser ses usines en Inde ou en Chine. 1500 emplois sont donc en jeu en Allemagne.
Et les tensions ne concernent pas que le gaz et l'électricité, elles concernent aussi certains métaux, notamment le lithium. Les tensions pourraient durer pour au moins une décennie, nous disent les experts.
Et cette ressource essentielle, notamment pour les batteries automobiles, voit ses prix flamber. Et la demande va continuer d'exploser avec la transition énergétique. C'est un géant américain du secteur, Albert Mail, qui lance l'alerte. Valentin Grille.
Le patron d'Albemarle, Ken Masters, annonce 7 à 8 ans de marché tendu sur le lithium. L'américaine a rehaussé 3 fois ses prévisions de marché cette année grâce à la hausse des prix. La tonne se vend 358% plus cher qu'il y a un an. En cause, les exigences des constructeurs automobiles qui veulent sécuriser leurs approvisionnements. General Motors a récemment investi 200 millions de dollars aux États-Unis, comme BMW qui soutient la jeune pousse Lilac Solutions. Stellantis s'appuie depuis juin sur Vulcan, une start-up allemande. Mais le marché est structurellement contraint, les exploitations se concentrent sur 4 pays, le Chili, l'Australie, la Chine et l'Argentine. Les producteurs délivrent aussi en moyenne 25% de moins que leurs prévisions du fait de problèmes techniques. Le lancement de nouvelles mines est aussi long, de 6 à 19 ans. La demande en or blanc est donc bien plus certaine que l'offre pour les prochaines années. À l'inverse d'autres métaux comme le cobalt, le lithium entre dans la composition de tous les modèles de batterie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale pourrait encore quadrupler d'ici à 2030.
Le mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, lourdement sanctionné par le Trésor américain. Il est accusé d'avoir blanchi pour plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle en 3 ans, notamment en lien avec la Corée du Nord. Un volet de sanctions qui comprend le gel des avoirs aux États-Unis, des personnes ou entités ciblées du mélangeur Tornado Cash et qui vont empêcher toute transaction avec des ressortissants américains.
Et on parlera des crypto-monnaies juste à la fin de ce journal avec Antoine Larigauderie. Il nous parlera des mixeurs de transactions. On reste dans le secteur avec Tiffany qui surfe sur la fièvre des NFT et qui a réalisé une vente historique.
Le joaillier américain propriété du groupe LVMH a lancé une offre exclusive disponible aux détenteurs de crypto-monnaies. Une enchère éclair, Charlotte Guerre.
20 minutes auront suffi à la maison Tiffany pour qu'elle écoule ses 250 pendentifs à un prix avoisinant les 50 000 dollars l'unité. Une vente privée, puisqu'elle n'était accessible qu'aux détenteurs de CryptoPunk, célèbre collection de NFT parmi les plus anciennes et les plus populaires du marché de l'art numérique. Cette série de pendentifs représente des personnages pixelisés uniques et chaque propriétaire en recevra également une version réelle, personnalisée avec son avatar, conçu en or 18 carats et serti d'une trentaine de pierres précieuses. Tiffany compte bien poursuivre sur cette voie du Web 3.0. Sur Twitter, le joaillier laisse déjà entrevoir la sortie d'un prochain bijou en actif numérique sur la blockchain. Une stratégie du groupe LVMH qui a lancé l'an dernier un consortium avec Prada et Cartier, depuis rejoint par Mercedes et le groupe vestimentaire italien OTB, une plateforme de blockchain qui permet aux clients d'authentifier n'importe quel produit de luxe. Une manière pour les marques de prestige de conquérir un nouveau marché.
La Chine utilise ses manœuvres pour préparer une invasion à Taïwan, affirme le chef de la diplomatie de l'île. À Taïwan qui réplique et entame cette nuit un exercice de défense à balles réelles. Un deuxième est prévu jeudi. Les deux entraînements vont impliquer le déploiement de plusieurs centaines de soldats et de près de 40 obusiers. C'est ce qu'a indiqué l'armée taïwanaise, même si Taipei assure que tout était déjà programmé et qu'il ne s'agit en rien d'une réponse directe aux manœuvres militaires de Pékin.
La Russie lance un satellite d'observation satellite iranien.
Ah oui, départ prévu depuis la base russe de Baïkonour au Kazakhstan à l'aide d'une fusée Soyouz aujourd'hui. Ce satellite a officiellement pour but de surveiller les frontières du pays, mais aussi d'améliorer la productivité agricole ou encore de contrôler les ressources en eau. Les États-Unis y voient des fins militaires et suspectent Moscou de vouloir l'utiliser pour sa guerre en Ukraine. Autre inquiétude pour les Américains relayée par le Washington Post. La Russie envisagerait, après son utilisation pendant plusieurs mois, de céder ensuite le contrôle de ce satellite à l'Iran. Information démentie par Téhéran.
Merci beaucoup Claire. On se retrouve tout à l'heure à 8h. Les crypto-monnaies, Antoine Larigauderie.
BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
Direction le siège d'Euronext à la Défense, on retrouve Antoine. D'abord un petit mot sur le Bitcoin qui finalement n'a pas réussi à tenir les 24 000 $.
Oui, on les a dépassés en séance hier, mais pas moyen de tenir, on est redescendu en dessous. En revanche, bonne performance de l'Ether qui progresse toujours bien au-dessus des 1 700 $. Puis à noter une bonne tendance, en particulier ce matin sur le Monero.
Vous allez nous apporter votre expertise. Claire en parlait rapidement dans le journal. On va parler de la régulation financière autour du Bitcoin. Et cette régulation s'attaque à un business juteux, c'est celui des mixeurs de transactions. De quoi s'agit-il et pourquoi est-ce que ça pose problème ?
Alors, les transactions autour des cryptos sont réputées totalement traçables grâce à la blockchain, même s'il reste compliqué toujours d'identifier précisément les acteurs au moment de la transaction. Ça demande un petit peu de travail. Tout est notifié, trouvable dans le grand livre des transactions de la blockchain. Et bien, pour rendre les transactions moins traçables et plus discrètes, des entreprises se sont montées dont le but est de mixer les transactions, c'est-à-dire de prendre en charge des milliers de transactions à la fois et de les balancer dans une sorte de mixeur numérique, il n'y a pas d'autre mot, tout en même temps. Alors, côté pile, l'objectif affiché, c'est de les regrouper pour en faciliter la gestion, mais le côté face, il faut bien reconnaître que ça provoque surtout une sorte de brouillage qui va compliquer le retracement des transactions. Et c'est à ce genre d'acteurs que les pirates informatiques font appel pour faire disparaître leur butin au milieu des millions d'autres transactions. Et c'est le cas effectivement de Tornado Cash, un de ces mélangeurs qui est spécialisé sur les transactions sur la blockchain Ethereum, celle qui gère la crypto-monnaie Ether. L'entreprise est désormais désignée par les autorités américaines comme un véritable blanchisseur industriel d'argent. Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à empêcher le blanchiment. Le Trésor continuera à mener des actions agressives, a indiqué un responsable du Trésor américain, car l'entité est accusée d'avoir participé activement au blanchiment de 7 milliards de dollars de crypto-actifs depuis 2019, et notamment deux opérations qui avaient fait grand bruit, l'une étant menée par Lazarus, un groupe de pirates informatiques liés à la Corée du Nord.
Merci beaucoup Antoine Larigauderie pour ces explications. On se retrouve juste après le journal de 8h. On verra comment s'oriente cette séance de mardi à la Bourse de Paris. 7h40, une question à présent. Une entreprise peut-elle refuser le versement d'un acompte ou d'une avance sur salaire qui est réclamée par un salarié? Écoutez la réponse de Thomas Schnell.
Good morning business, BFM Business avec vous.
Un employeur nous écoute beaucoup sur BFM Business et il se demande si son salarié a le droit de lui demander systématiquement une avance sur salaire. Est-ce qu'il peut refuser? Alors, il faut savoir qu'il y a deux notions juridiques que l'on confond souvent. Il y a d'abord l'avance sur salaire et l'acompte. L'avance sur salaire, c'est une situation où on demande le paiement anticipé d'un travail qui n'a pas encore été effectué. C'est comme si on demandait le 31 juillet d'être payé pour le mois d'août. Là, l'employeur peut refuser. Il n'y a aucune obligation. En revanche, l'acompte, c'est de demander le versement anticipé d'une somme qui correspond à un travail déjà effectué. Le Code du travail dit qu'à partir du 15 de chaque mois, eh bien, le salarié peut demander le versement de la première partie de la rémunération du mois. Là, c'est une obligation pour l'employeur.
Si vous aimez le cinéma, une idée très originale. Récupérer les décors qui ont servi au tournage de films afin de leur donner une seconde vie, soit pour les réutiliser, soit tout simplement pour en récupérer les matières premières. C'est un reportage signé Rebecca Blanc-Lelouch.
Good Morning Business, Impact.
Récupérer des décors de cinéma pour les louer ou les vendre, c'est le concept de la ressourcerie du cinéma et on est aujourd'hui dans sa base, tout près de Paris, avec son cofondateur Jean-Roch Bonin. Comment vous avez eu l'idée de sauver des décors éphémères ?
L'idée est venue d'une expérience professionnelle de 25 ans d'accessoiriste où depuis des années, on se dit qu'il faut arrêter de jeter ces éléments de décor qui sont une matière première quasi neuve parce qu'à peine utilisée. Donc le concept, c'est en amont, auprès des productions, on référence tout ce qui peut être récupérable et réemployable. Et nous, on se positionne ensuite au démontage du décor pour collecter tous ces éléments-là. Tout ce que l'on fait économiser comme benne auprès des productions qui sont responsables de leurs déchets, donc nous, on leur facture cette prestation. Mais il y a une telle quantité que le cinéma et l'audiovisuel ne suffisent pas, donc on essaye de renvoyer vers d'autres secteurs comme le bâtiment ou comme les particuliers pour faire de l'autoconstruction et choses comme ça.
Depuis son lancement l'année dernière, la ressourcerie a enregistré près de 300 clients et parmi eux, Valentin Mention, vous êtes architecte à l'atelier Choiseul. En fait, vous venez ici faire votre marché sur le catalogue de la ressourcerie ?
Approximativement, oui. Tout d'abord, en fait, on est venu consulter la ressourcerie pour voir s'ils avaient des matériaux à nous fournir suite à la crise des matières premières qu'on a essuyé ces dernières années. On est venu chercher, grâce au bouche à oreille, des matériaux de réemploi. Et le résultat aujourd'hui est satisfaisant, donc on aimerait poursuivre cette expérience.
Depuis son lancement, la ressourcerie du cinéma a récupéré près de 500 mètres cubes de matériaux et l'entreprise vient tout juste de signer un partenariat avec un studio parisien et ne compte pas s'arrêter là.
On marque une pause, on se retrouve juste après pour la suite de Good Morning Business. Restez avec nous.
Télé, radio et digital. Good Morning Business.
Après 2 ans de crise sanitaire, l'activité touristique a nettement rebondi en France. Les professionnels du secteur s'attendent à un été record après les très bons chiffres du mois de juillet. Avec toutefois quelques bémols autour du bassin d'Arcachon, plusieurs campings ont été détruits par les incendies avec évidemment de lourdes conséquences pour l'activité touristique. On va faire le point avec Franck Chaume, président de l'UMIH, UMI de Gironde, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Vous avez été confronté à une vague d'annulation fin juillet après les incendies qui ont frappé le sud de la Gironde. Quelle est aujourd'hui la situation ? Est-ce que les touristes sont de retour ?
On a un petit regain depuis 3-4 jours, juste avant le week-end. On a l'impression que ça bouge un peu plus que les 15 derniers jours, bien évidemment, à cause des incendies de forêt.
Quel est aujourd'hui l'état d'esprit des professionnels du tourisme dans la région ? Est-ce qu'ils sont confiants sur le fait que le mois d'août leur permettra de rattraper une partie du manque à gagner ?
Alors tout d'abord, déjà dans la profession, on ne rattrape jamais ce qu'on a perdu, hein, parce que quand on a un nombre de couverts un soir ou dans la journée, on ne peut jamais rattraper ce qui a été perdu les jours précédents. Donc ça, c'est impossible. On espère juste que la météo sera clémente au mois de septembre avec nous pour avoir une arrière-saison, dirons-nous, bénéfique. Après, quel est le moral ? Vous savez, on vient de subir 15 jours assez sidérants. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de victimes, dirons-nous. Donc, on retient que ça. Après, on espère, on a une région et un cadre qui est magnifique. On espère que les touristes seront au rendez-vous tout le mois d'août et au mois de septembre.
Est-ce que les touristes qui ont dû annuler leur venue dans les campings se sont, pour certains, reportés sur d'autres types d'hébergements, et je pense notamment à l'hôtellerie ?
Alors, on l'espère, toujours. On n'a pas encore les chiffres, hein, parce que c'est quand même assez frais. On espère que tous ces touristes, alors ceux qui étaient dans les séjours proches, dirons-nous, les incendies, ceux-là, on sait que ce n'est pas possible, ils ont dû partir sur d'autres destinations. Maintenant, ceux qui avaient programmé leur venue sur le mois d'août et sur le mois de septembre, on espère qu'ils ont trouvé ou qu'ils ont réservé dans nos hôtels. On a un regain, on pense que ça va aller mieux dans le mois d'août et au mois de septembre.
Vous le dites, c'est encore assez frais, c'est difficile de faire les comptes, mais est-ce que vous avez pu chiffrer grosso modo l'impact économique des incendies ? On sait que plusieurs campings ont été détruits. Vous le disiez récemment, 1 euro dépensé dans un camping, ce sont à peu près 3 euros dépensés à l'extérieur.
Oui, parce qu'on a une image du camping qu'on voyait auparavant. Aujourd'hui, les campings sont des campings de luxe, dirons-nous, c'est un peu des mini Club Med. Donc, il y a un pouvoir d'achat quand même qui est relativement important. Déjà, il y a 8 à 10 000 personnes qui travaillent sur ces 5 campings, ce qui n'est pas rien. Et quand on sait que 1 euro dépensé dans un camping, il dépense 3 euros à l'extérieur du camping, ça prouve que c'est une manne financière touristique et importante pour nous.
Quels sont les commerces ou les activités qui ont été le plus touchées ? On imagine la restauration, mais est-ce que, par exemple, les locations de vélos ont été affectées ?
Oui, alors moi, comme vous le voyez derrière moi, je suis sur le port d'Arcachon et bien évidemment, tous les secteurs ont été touchés. Les, les magasins de vêtements, de souvenirs, les locations de bains, les locations de vélos, les locations de villas, d'hôtellerie pour nous concernant et la restauration. Tout le monde a été touché, on est à moins 40%, ce qui n'est pas rien dans un compte d'exploitation, vous imaginez bien. Mais bon, voilà, on a espoir. On a espoir parce que d'abord, nous, la profession, on est quand même des gens assez optimistes. On sait se relever, on s'est relevé des gilets jaunes, on s'est relevé de la Covid. Et bien, écoutez, c'est dans notre région une catastrophe, mais on va faire en sorte de se relever aussi une énième fois.
Évidemment, on ne peut pas aller plus vite que la nature. Il va falloir replanter ces forêts qui ont été détruites par les incendies. Comment est-ce que vous voyez les années qui viennent en matière de tourisme?
Je pense que déjà le SIBA, donc le syndicat intercommunal du bassin d'Arcachon, a fait une vidéo, fait une promotion qui est assez représentative. Je crois que aujourd'hui le bassin d'Arcachon, c'est la forêt et l'eau. Et aujourd'hui l'eau est toujours intacte, la forêt a été touchée effectivement, mais bon, on est quand même une des plus grandes forêts d'Europe. Donc la nature va reprendre ses droits. On espère que d'ici quelques années. Dirons-nous, ça sera plus qu'un mauvais souvenir.
Vous parliez de l'eau, c'est un problème cet été en France, la sécheresse historique qui a d'ailleurs entraîné l'ouverture d'une cellule de crise au niveau ministériel. Est-ce que ça complique encore l'activité touristique, le manque d'eau et la sécheresse cet été?
Alors pour nous sur le bassin d'Arcachon, non, parce que j'ai pas l'impression, parce que bon, on est quand même face à un plan d'eau. Effectivement, le soleil, nous on aime dans notre commerce, on aime bien quand il y a du soleil. Bon, c'est vrai qu'il y en a un peu trop et par rapport à nos producteurs, ceux qui nourrissent nos restaurants, c'est important qu'il y ait de l'eau qui arrive. Mais bon, s'il pleuvait la nuit et qu'il faisait beau le jour, pour nous, ça serait parfait. Mais je pense que bon, tout va bien se passer là-dessus.
Les touristes sont de retour cet été en France. Les professionnels du tourisme, en général, sont plutôt très satisfaits de ce début de saison. Pour autant, est-ce que les touristes dépensent autant qu'avant la crise sanitaire ?
Alors, je pense que le touriste étranger, il dépense autant. On le voit sur Bordeaux, puisqu'aujourd'hui, Bordeaux est en effervescence. Tous les touristes ont reporté leur séjour depuis les deux, trois dernières années du Covid, les étrangers. Donc, ils sont venus, ils ont répondu présent. On a une manne touristique étrangère qui est de l'ordre de 80%, donc c'est assez important. Après, nous concernant sur le bassin d'Arcachon, les gens avec le pouvoir d'achat font attention, ça c'est sûr. Il y a moins d'allers-retours entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon, mais bon, l'un dans l'autre, on sent quand même qu'il y a un regard sur les dépenses.
Quelles sont les dépenses qui font l'objet d'arbitrage? Est-ce que par exemple les touristes vont un petit peu moins au restaurant ou est-ce qu'ils achètent moins de souvenirs peut-être?
Alors, les souvenirs, je ne peux pas répondre à leur place, mais oui, nous concernant, évidemment, on regarde toujours. Après, peut-être qu'on ne prend pas de dessert si on a un pouvoir d'achat un peu plus bas ou on va moins manger de glace la journée. Mais je pense que, vous savez, avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ces fermetures dues au Covid, je crois que les gens ont envie de vivre et ont envie de consommer. Donc là-dessus, je suis assez optimiste.
Une dernière question. Quel est le profil des touristes qui aujourd'hui se rendent en Gironde et autour du bassin d'Arcachon? À Paris, on voit bien que la clientèle internationale est de retour. C'est vrai aussi pour vous?
Alors, comme je vous disais, Bordeaux, oui. Bordeaux, ouais. Tout l'international est revenu comme avant, même voire plus. C'est tous les reports de séjour qui sont arrivés. Nous concernant sur le bassin, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'étrangers, mais bon, je crois que c'est pas les étrangers qui vont forcément faire notre bonheur. C'est le monde, c'est les touristes en général, le français, celui qui est dans la région d'à côté. C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est déjà d'avoir, dirons-nous, ou de faire comprendre plutôt à ces touristes qui peuvent venir chez nous que c'est une région extraordinaire. Il n'y a pas que la forêt, il y a la forêt et l'eau, que l'eau est là, que le plan d'eau est magnifique, qu'on a un cadre idyllique. Donc je crois que voilà, il faut les inciter, il faut que vous, les médias, bien évidemment, vous nous aidez, parce qu'on a besoin de vous pour avoir ce regain d'optimisme.
C'est effectivement une région magnifique. Merci à vous, Franck Chaume, d'avoir été en duplex avec nous.
Merci,
président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie pour la Gironde, avec donc l'impact des incendies et le retour des touristes depuis quelques jours. Voilà, rediffusion de l'interview d'hier matin en raison d'un petit problème technique qui nous a privé de notre connexion ce matin. Toutes nos excuses pour cette rediffusion. On marque une pause. Juste après, ce sera le journal de Claire Sergent. N'oubliez pas, à 8h15, la présidente de la FNSEA sera notre invitée. On parlera évidemment des restrictions d'utilisation d'eau en France. Tout le monde se renvoie la balle. Les agriculteurs pointent du doigt d'autres usages de l'eau, notamment l'arrosage des stades de foot. Les piscinistes, eux, ne veulent pas être pris pour bouc émissaire. On parle de tout ça après la pause.
Télé, radio et digital. Good morning business. Stéphane Pedrazzi.
Il est bientôt 8h. Merci d'avoir choisi BFM Business et RMC Découverte pour vous accompagner ce matin. La France confrontée aux restrictions pour l'utilisation de l'eau. 93 départements français font désormais l'objet de restrictions, notamment pour l'arrosage des cultures. Certains exploitants ont malgré tout choisi de braver l'interdiction. Ils pointent le risque de pénurie alimentaire. On en parlera en détail tout à l'heure à 8h15 avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Elle sera mon invitée. Vous l'avez entendu ce matin sur notre antenne. De leur côté, les fabricants de piscines refusent d'être considérés comme des gaspilleurs d'eau. Ils ne veulent pas être les boucs émissaires et ne représentent que 0,1% de la consommation totale. C'est ce que nous expliquait ce matin la déléguée générale de la Fédération des professionnels de la piscine. Autre sujet qu'on va aborder dans cette prochaine demi-heure, le groupe de luxe Richemont. Il est sous la pression des fonds activistes qui réclament un changement de stratégie et de gouvernance. Richemont possède de nombreuses marques, notamment Cartier, Montblanc et Lancel. Les géants français du luxe sont à l'affût, notamment le français Kering. On en parlera tout à l'heure avec Mathieu Pechberti dans le journal de 8h30. Et l'actualité, bien sûr, toujours dominée, Claire, par la canicule qui dure depuis déjà plusieurs semaines et qui doit atteindre son pic vendredi.
Oui, cette vague de chaleur qui touche toute la France, à quelques rares exceptions le long de la Manche. 93 départements sont en restriction d'eau. Deux tiers sont dans une situation critique. Alors, on tente d'économiser l'eau partout, mais Sofiane Aklouf, je me tourne vers vous. Qui en consomme le plus ?
Alors, pour être clair, on parle ici de l'eau consommée, hein, c'est-à-dire celle qui n'est pas restituée aux milieux aquatiques, une fois utilisée, contrairement à l'eau prélevée. Le volume annuel d'eau consommée est estimé à 5,3 milliards de mètres cubes par an en France métropolitaine, ce qui représente 82 mètres cubes par habitant. Un volume qui est inéquitablement réparti entre les activités. La plus consommatrice et de loin, c'est l'agriculture. Elle accapare près de la moitié des ressources d'eau, 45% pour être précis, devant le refroidissement des centrales, en particulier pendant les vagues de chaleur. C'est très important, une activité consommatrice à 31% de ce total. Plus étonnant, seulement 20% de l'eau potable en France est destinée à la population pour un usage quotidien. Viennent ensuite les usages industriels pour 3 à 4% du total seulement.
45% de l'eau utilisée par l'agriculture, Sofiane, à quoi est-ce qu'elle sert exactement cette eau ?
Alors avant tout, à irriguer les cultures. Là encore, toutes ne sont pas aussi hydrovores. Le maïs est largement en tête avec 41% de la consommation devant les autres céréales comme le blé par exemple avec un cinquième du total, mais cette part est en constante augmentation. Les fruits et les légumes enfin sont loin derrière avec 13%. Mais cette eau potable, elle sert aussi à alimenter le bétail. À titre d'exemple, une vache consomme entre 40 et 120 litres d'eau par jour. Et dans une moindre mesure, enfin, la consommation sert à assurer l'entretien des bâtiments.
Du coup, on consomme pratiquement autant qu'une vache par jour pour notre consommation domestique, Sofiane. Je vois le chiffre, 148 litres d'eau par jour et par personne. On pourrait presque être des vaches.
Oui, c'est une belle comparaison. Ça fait surtout 329 litres d'eau par foyer et par jour, selon l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. Et dans la très grande majorité, cette utilisation est liée à l'hygiène et au ménage. Dans le top 3, les bains et les douches, 39%, les sanitaires et dans une moindre mesure le lavage du linge pour 12%. L'alimentation, cette fois, arrive loin derrière, contrairement aux vaches.
Je ne suis pas très sûr que les vaches lavent leur linge et prennent un bain ou une douche. Merci beaucoup en tout cas, Sofiane Aklouf. On va parler aussi des piscines privées, Claire.
Ouais, elles sont soumises au régime sec, mais pour Joël Pulinx-Chalet, délégué général de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa, elles ne doivent pas servir de bouc émissaire alors que ces bassins privés ne consomment que 0,12% de l'eau qu'on utilise en France. Elle était votre invitée il y a moins d'une heure, on l'écoute.
Souvent, on nous prend comme bouc émissaire parce que, effectivement, la piscine a une certaine image ou avait une certaine image. Aujourd'hui, attention, la piscine s'est largement démocratisée et la piscine, c'est la piscine de monsieur tout le monde. On a plus d'un quart des possesseurs de piscine qui sont des ouvriers, des employés, etc. Donc, le fait de dire j'ai une piscine, je suis riche, etc., non, ça n'est plus vrai. Et on n'est plus sur une piscine des années 90 où il y avait 73 mètres cubes d'eau à l'intérieur. Aujourd'hui, on est sur des piscines plus petites, moins profondes, qui ne comporte que 43 mètres cubes d'eau en moyenne.
Et on vient de le voir, l'agriculture gourmande en eau fait craindre le pire pour nos stocks alimentaires l'hiver prochain et aussi pour les éleveurs, Claire.
Oui, la FNSEA alerte, on pourrait manquer de lait à l'automne et certains producteurs risquent de se retrouver en très grande difficulté en cause le fourrage. Moins de 10% des récoltes sont irriguées. Or, sans fourrage, impossible de nourrir ces bêtes. Laura Cambeau.
La sécheresse frappe de plein fouet les deux composantes essentielles du fourrage, l'herbe et le maïs. Leur croissance s'est stoppée très tôt. Michel Moquet, spécialiste de l'Institut agricole Arvalis, prévoit déjà une année catastrophique.
Sur la partie production d'herbe au printemps, globalement, on parle de moins 20, de moins 30% par rapport à une année normale. Et sur le maïs, depuis maintenant une quinzaine de jours, on a déjà eu des premières récoltes, ce qui est quand même exceptionnel pour cette culture, hein, où les chantiers se déroulent plutôt... On va dire fin août, début septembre d'habitude.
La majorité de la production est destinée à l'alimentation des animaux. Seulement les prés ont brûlé et les stocks de fourrage pour l'hiver sont déjà entamés depuis juin. Les éleveurs vont donc devoir en acheter. Or, avec la guerre en Ukraine, les cours des céréales n'ont jamais été aussi élevés. Plus de 300 euros la tonne de maïs en ce moment.
Les éleveurs seront peut-être obligés de vendre une partie de leurs animaux hein, pour pouvoir passer cette période difficile. Donc ça peut avoir des répercussions sur la production laitière. Ça peut avoir des répercussions aussi sur le marché de la viande.
Pour lutter contre les conséquences du réchauffement climatique, les éleveurs devront s'adapter, notamment en changeant leur production et en adaptant le calendrier des récoltes.
Le prix du lait qui va continuer à augmenter. Benoît Rouillet, directeur économique du Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, ne voit pas l'inflation baisser sur tous les produits laitiers dans les semaines à venir, alors que sur un an, les prix des yaourts ont pris 4,5%. Idem pour le lait en brique ou en bouteille. Pour le beurre, c'est même plus 9,8% sur un an et plus 5,2% pour le fromage.
On vous a souvent parlé du monde d'après pour évoquer tous les changements provoqués par la pandémie. Eh bien, il semblerait, Claire, qu'on soit revenu à des modes de consommation beaucoup plus traditionnels.
Ah oui, certaines choses ne durent pas. Le e-commerce s'en ressent et dans son sillon, les entrepôts qui attirent de moins en moins les investisseurs. Ce marché qui avait explosé avec la crise Covid commence à donner des signes de faiblesse. Selon des chiffres compilés par le Financial Times, la demande ralentit et les prix baissent. Caroline Morisseau.
Éclatement d'une bulle ou simple ralentissement du marché, c'est en tout cas la fin d'une période d'euphorie sur le marché des entrepôts. Depuis quelques années, les investisseurs se sont en effet rués sur ces biens qui avaient tout pour attirer. Une forte demande liée au boom du e-commerce, alors qu'à l'inverse, les bureaux et les magasins étaient désertés pendant la crise Covid. Tout cela dans un contexte de taux bas. Seulement voilà, depuis quelques mois, la donne a changé. Le commerce en ligne ralentit, les taux remontent et font baisser le rendement locatif. Tout cela se ressent déjà sur le prix des entrepôts. Ils ont perdu 5 à 10% sur l'ensemble de l'Europe depuis le début de l'année. Au Royaume-Uni, où le marché est particulièrement développé, on est même sur 10 à 20% de baisse. Pour certains analystes, c'est une simple correction et le marché a encore de belles perspectives. Car si la demande ralentit du côté du commerce en ligne, les commerces traditionnels pourraient bien prendre le relais face aux pénuries et à la hausse du carburant. De plus en plus cherchent en effet des entrepôts pour stocker leurs marchandises au plus près de leurs clients.
Et puis on va vous parler d'un produit de saison, évidemment les glaces Ben & Jerry, procès intenté par la marque à sa maison mère Unilever. Pour quelle raison, Claire ?
Eh bien, la marque est bien connue pour ses prises de position assez tranchées. Fin juillet, Ben & Jerry's défend sur son compte Twitter une taxation des super profits avec ces termes crus. Les profits des compagnies gazières sont immoraux et contraires à l'environnement. Fin de la citation. Et plutôt, le groupe avait pris position pour la défense de l'avortement. Sa maison mère ne semble pas suivre forcément toutes ses positions. Unilever veut vendre l'activité de Ben & Jerry's en Israël. Ce dernier s'y oppose. La justice américaine doit se prononcer aujourd'hui. Virginie Cook.
Pour comprendre les raisons de ce bras de fer, il faut revenir un an en arrière. L'été dernier, Ben & Jerry's, connu pour ses engagements en matière d'écologie ou de respect des droits de l'homme, prend une décision très médiatisée, ne plus vendre ses glaces dans les colonies israéliennes de Cisjordanie. En réponse, il y a deux mois, la société mère Unilever décide de céder la branche israélienne de Ben & Jerry's à Avi Zinger, le détenteur de la licence locale. Une opération qui permettrait de redémarrer l'activité dans les colonies israéliennes. Mais pour la marque, cette cession menacerait son intégrité et sa réputation qu'elle a mis des décennies à construire. Pour bloquer la vente, Ben & Jerry's a donc porté l'affaire en justice. Cette bataille met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises qui prennent position sur ce sujet. Il y a 3 ans, Airbnb avait arrêté de louer des logements dans les colonies israéliennes avant de revenir sur sa décision.
Il est 8h09, les marchés financiers. Avec Antoine Larigaudry en direct du siège d'Euronext à la Défense. Antoine, on devrait tenir le cap des 6500 points sur le CAC à l'ouverture.
Oui, sans doute, avec un petit peu de consolidation quand même dans le sillage de la clôture de Wall Street qui était plutôt mitigée. On sent quand même qu'on manque de volume, qu'on manque de conviction et puis de catalyseur hein, pour aller un petit peu plus haut. Mais en tout cas, on devrait tenir ces 6500 points. Il faut dire que depuis la semaine dernière, on a regagné pas mal de terrain mais qu'on semble plafonner un petit peu sur ce niveau. Si on le tient, c'est déjà ça. Ça nous permettra d'attendre mercredi hein, avec la publication des chiffres d'inflation du côté de la Chine, des États-Unis ou encore de l'Allemagne qui donneront vraiment le ton, mais on est dans un contexte de court terme qui est plutôt propice au placement sur les marchés actions. On a vu qu'il y avait quelques mouvements sectoriels. C'est vrai que l'apaisement sur les taux obligataires a provoqué des prises de profit, notamment sur le secteur bancaire hier. On pourrait avoir d'autres secteurs qui prennent leur lait. Peut-être quelques prises de profit aussi sur le secteur de l'énergie, alors que les prix du pétrole sont quand même en recul. Ce sera une des thématiques de cette semaine sans doute aussi. Peut-être un petit peu moins de pression sur les banques centrales concernant leur lutte contre l'inflation, vu que les prix de l'énergie restent le principal catalyseur de ce mouvement extraordinaire auquel on assiste depuis quelques mois. Donc pour l'instant, un climat plutôt propice au marché actions, un petit peu de stabilisation à prévoir à l'ouverture à Paris et donc ces 6500 points à tenir.
Merci beaucoup Antoine. Une question un petit peu hors sol. Est-ce que vous seriez prêt à porter des chaussures en peau de poisson ? Ah, il est déjà parti. Bon, regardez bien ce qui va suivre. Chaque année en France, 2 millions de peaux animales sont utilisées par l'industrie textile. Souvent, c'est du cuir coloré par des produits polluants. Le secteur, sachez-le, entame sa transition écologique avec de nouvelles techniques de fabrication. Une start-up lyonnaise revalorise les peaux de poisson utilisées dans les restaurants et les piscicultures en un matériau pour les transformer en un matériau noble et durable. Voyez ce reportage de Noémie Vira.
Good Morning Business, commerce 2.0.
Nous sommes aujourd'hui dans une tannerie éco-responsable innovante implantée juste à côté de Lyon. Il s'agit d'Ictios. La start-up réalise des cuirs marins à partir de peaux de poissons issues de l'agroalimentaire. Du saumon, de la truite, du cabillaud et même de l'esturgeon. L'idée de la start-up est de créer une nouvelle filière du cuir, des cuirs marins offrant une infinie possibilité de types de grains et d'écailles. Benjamin Malatret, cofondateur d'Ictios.
Le cuir de silure qui provient donc de la région lyonnaise également, qui est aussi issu de la consommation et qui va avoir un grain qui va être beaucoup plus lisse que ceux qu'on peut avoir sur le saumon, sur la truite ou qui peuvent avoir un motif écaillé. Là, on est presque sur un cuir à l'aspect bovin.
Les peaux sont travaillées pendant 2 semaines afin d'obtenir un cuir de qualité. Une fois les plus belles parties sélectionnées, direction le foulon, où les peaux sont nettoyées et brassées dans un tonneau imprégné de tanins végétaux.
Aujourd'hui, près de 90% de l'industrie du cuir est basée sur l'utilisation de métaux comme le chrome. Nous, on utilise des choses qui sont beaucoup plus anciennes, qui se basent sur des tanins végétaux. Comme des tanins, on a des travaux sur le marc de raisin, on a des travaux sur des tanins de bière, on a des travaux sur du châtaignier.
Une fois les peaux colorées, on les laisse maturer avant de les cadrer à la main. Gauthier Lefébure, cofondateur et directeur de la tannerie Ictios.
Donc là, c'est l'étape de séchage des cuirs. Les cuirs ont déjà été tannés par le marc de raisin. Et donc, on est en train de les étendre pour pouvoir avoir la plus grande surface possible et la plus plane possible.
Mat, brillant, satiné et une palette de couleurs infinies. Une fois le travail du cuir terminé, ce sont des maroquineries, des horlogers et des marques de chaussures qui en feront l'acquisition pour quelques dizaines d'euros pour le cuir de saumon.
Un prix pouvant monter à plusieurs centaines d'euros pour des cuirs d'exception comme l'esturgeon. Benjamin Malatret, cofondateur d'Ictios.
Là, on est sur un cuir d'esturgeon, donc le Nova, où on retrouve un peu ce motif du caviar, une forme de petite étoile, qui va justement donner sa singularité à ce cuir-là. Et il n'y a aucun autre cuir au monde qui ressemble à ce motif-là.
Une alternative au cuir bovin et au cuir exotique qui séduit déjà de nombreuses enseignes. Cette marque de maroquinerie propose des accessoires en cuir de saumon. Tarif 69 euros le porte-carte, 89 euros la ceinture. Tine Collard, fondatrice de Nodiz.
Ce qui était important pour nous, c'était vraiment d'avoir la traçabilité des pots qu'on achète et que ce soit des pots qui proviennent vraiment des déchets de consommation. Vous allez avoir différentes finitions. On va avoir plutôt les écailles écrasées avec une finition brillante ou alors les écailles un tout petit peu plus relevées avec une finition mate.
Dans une logique d'économie circulaire et durable, les pots proviennent exclusivement de poissons consommés en France. La traçabilité et les conditions d'élevage des poissons sont transmises aux marques. L'occasion aussi de sensibiliser les piscicultures à avoir de meilleures pratiques.
Il est bientôt 8h15. À suivre, juste après la pause, les agriculteurs confrontés aux restrictions d'utilisation de l'eau. Comment s'annonce l'hiver prochain? Est-ce qu'on va manquer de céréales? Est-ce qu'on va manquer de viande? La situation est extrêmement tendue. On en parle juste après la pause avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Restez avec nous.
BFM Business, Good Morning Business, l'interview.
93 départements français désormais confrontés à des restrictions pour l'utilisation de l'eau. Comment est-ce que le monde agricole gère ces restrictions? Certains agriculteurs ont choisi de ne pas respecter les interdictions pour sauver leur production. D'autres ont été contraints de vendre une partie de leur cheptel en raison de la sécheresse et du manque de fourrage. Situation extrêmement tendue. On va en parler avec Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA. Bonjour, merci d'être en ligne avec nous. Question directe, est-ce que le monde agricole avait déjà connu une crise d'une telle ampleur?
Non, jamais nous n'avions connu une crise d'une telle ampleur. Et d'ailleurs, les météorologues le disent, c'est pire qu'en 1976, où l'ensemble de la France n'était pas touchée. C'est pire qu'en 2003, où il n'y avait pas eu une canicule aussi longue. Nous sommes à la quatrième vague de canicule. Donc l'année 2022 est une année historiquement dramatique. Alors, il y a eu un hiver très sec, un printemps très chaud, un été chaud et des canicules qui durent. C'est la pire des choses pour les plantes qui sont à l'extérieur. Regardez vos fleurs, vos jardinières, et vous comprendrez. Regardez les arbres à Paris, toutes les feuilles deviennent marron. C'est pareil pour l'agriculture. Tout dessèche parce que la conjonction manque d'eau, température élevée et puis sécheresse, c'est dramatique.
Le blé a déjà été moissonné, mais est-ce que d'autres récoltes sont menacées? Je pense notamment au maïs et au tournesol.
Les cultures qui ne sont pas encore récoltées, comme le maïs, le tournesol, les vendanges, les fruits, souffrent énormément et il y aura des pertes de rendement. Certains annoncent même moins 50, voire moins 60% de rendement sur certaines cultures. C'est aussi le cas des prairies. Les prairies, vous le voyez quand vous prenez le train ou la voiture, regardez donc sur les côtés, elles sont toutes jaunies, elles sont marrons. Les vaches, les moutons n'ont plus rien du tout à manger, grattent la terre, abîment les prairies. Et donc, il y aura des dégâts aussi dans le temps. Et les agriculteurs éleveurs, aujourd'hui, sont obligés de commencer leur stock d'hiver. Depuis 3 semaines, ils nourrissent leurs animaux dans les prés, avec du foin, avec de l'ensilage, qui était prévu pour cet hiver. Donc, il y aura des problèmes de trésorerie pour nourrir toutes les bouches cet hiver. Et peut-être certains seront tentés de vendre des animaux, faute de pouvoir acheter du fourrage.
Vous pensez qu'il y a un risque de pénurie alimentaire l'hiver prochain?
Pénurie, je ne pense pas, mais déjà aujourd'hui, nous manquons de viande. C'est la raison pour laquelle le prix a augmenté. C'est ce qu'il faut expliquer aussi aux consommateurs. La production laitière baisse dans le monde. Elle a baissé en Océanie, qui est le principal bassin de production. Elle a baissé au premier semestre en France. Par contre, l'équation, je vous la pose tout net. Est-ce que les éleveurs peuvent acheter du fourrage avec l'espoir de vendre leur lait plus cher quand on a dans les négociations commerciales des distributeurs, bon nombre d'entre eux, qui refusent d'augmenter le prix du lait? Toutes les charges des éleveurs augmentent, l'alimentation des animaux qui a pris 30%, le carburant a doublé, les engrais ont augmenté de 120%. S'il n'y a pas de hausse sur les prix de vente de nos produits, nous serons dans le rouge. Donc c'est d'abord aux consommateurs français de comprendre, et certains le comprennent très bien, et commencent à dire oui, achetons français pour soutenir les agriculteurs français.
On parlera du rapport avec les distributeurs dans un instant. D'abord, l'utilisation de l'eau. Est-ce que vous comprenez toutes les restrictions qui ont été mises en place? Et est-ce que vous auriez souhaité que l'agriculture soit peut-être considérée comme une exception, compte tenu de son importance?
Alors, d'abord, je voudrais faire une correction. J'ai entendu une fake news épouvantable sur votre chaîne tout à l'heure. La représentante des piscines professionnelles de France, Madame Pulinx, qui a dit « Ah, oh, mais une piscine, c'est 15 mètres cubes d'eau, c'est l'équivalent de la production d'un kilo de viande. » C'est faux et archi-faux. C'est faux et archi-faux. Interrogez Jean-Louis Perrault de l'INRA, expert reconnu par la Commission européenne, c'est maximum 300 litres. Donc, que des vendeurs de piscines instrumentalisent des chiffres et disent n'importe quoi pour dire « les piscines, c'est moins grave que la viande et l'alimentation », c'est pas sérieux. Donc, j'apporte ce démenti formel quelques minutes après qu'elle l'ait dit sur votre antenne. Et donc, il y a des restrictions. L'eau est gérée en département par les préfets. Il y a différents stades de restrictions. Lorsqu'on est en vigilance, lorsqu'on est en crise, il n'y a pas les mêmes restrictions. Quand les rivières, quand les niveaux d'eau baissent énormément, il y a des restrictions de prélèvement. Ils sont maintenus la nuit, parce que c'est la nuit qu'il vaut mieux arroser. Et puis, après, ce sont les cultures spéciales, horticulture, pépinière, maraîchage, qui peuvent pas se passer d'un jour d'eau, qui sont prioritaires et qui bénéficient d'une dérogation. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'eau, nous comprenons qu'il y ait des arrêtés d'interdiction. Par contre, il faut qu'il y ait concertation. Et visiblement, dans certains départements, je pense à la Charente-Maritime, à la Dordogne, où les agriculteurs s'insurgent aujourd'hui, les choses ont été faites de façon autoritaire, sans en parler vraiment suffisamment. Et là, les agriculteurs ne convainquent pas que ce soit aussi brutal. Mais de vous à moi, est-ce que c'est pas plus important de se nourrir que de se baigner ou d'aller jouer au golf? Au moment où on parle de choix prioritaires, est-ce que se nourrir et protéger l'agriculture et l'alimentation pour qu'il y ait en quantité de production et donc des prix qui ne flamberont pas, c'est pas plus important que beaucoup d'autres choses? Soyons sérieux. Je vois des reportages aujourd'hui qui nous parlent de l'arrosage des fleurs. C'est important d'arroser les fleurs. J'en ai aussi dans mon jardin. Mais est-ce que c'est pas plus important de penser d'abord à l'alimentation? Je pense que l'hydrologue de l'INRAE, monsieur Vanek André Assian, qui s'exprime sur beaucoup d'antennes en ce moment, dit qu'en France, nous avons été trop superficiels sur la gestion de l'eau. Depuis 30 ans, pas de réserve d'eau, nous n'avons pas anticipé. L'État n'a pas anticipé en n'accordant pas la possibilité de construire des réserves d'eau. Nous sommes un des pays qui a le moins d'irrigation, alors que nous sommes plus au sud que les Pays-Bas, l'Allemagne et Hongrie, qui ont fait ces travaux d'anticipation bien avant nous.
Du coup, j'imagine que vous comprenez les agriculteurs qui ont choisi de braver l'interdiction.
Je ne peux pas cautionner les gens qui bravent les interdictions, vous le comprenez bien, c'est comme si je disais sur les autoroutes, on peut rouler à 150 à l'heure. Quand il y a une interdiction, il y a une interdiction. C'est la forme et la façon dont la décision a été prise par les autorités départementales, qui fait qu'il y a incompréhension. Je vois qu'aujourd'hui, les agriculteurs de Charente-Maritime ont stoppé leur irrigation et contribuent avec travaillent et discutent avec l'administration.
Est-ce que l'agriculture doit se transformer, y compris dans la façon d'irriguer les cultures? On voyait encore, il n'y a pas si longtemps, des arrosages en pleine journée. On sait que beaucoup, une grosse partie de l'eau qui est utilisée dans ce type d'arrosage s'évapore et ne profite pas vraiment aux cultures.
Alors, une grosse partie, qu'est-ce que c'est, monsieur? Là aussi, que disent les scientifiques? L'INRAE dit, l'évaporation et l'évapotranspiration, lorsqu'on irrigue en pleine journée, c'est 3 à 6 %. Donc, ce n'est pas une grande partie, c'est 3 à 6 %.
3 à 6 % quand même d'une quantité d'eau qui est considérable au départ.
Oui, mais c'est 6 %, ce n'est pas 50 % comme certains l'écrivent. Donc, c'est 6 %. Nous sommes-nous adaptés? Oui, bien sûr. En 2019, la FNSEA a voté un rapport qui s'appelle « Faire du défi climatique une opportunité pour l'agriculture », dans lequel il y a une quarantaine d'engagements pour montrer ce que nous faisons déjà et ce que nous allons amplifier par rapport au changement climatique en matière de carbone, en matière de captation des sols, en matière de pratiques agricoles, en matière aussi de prestations pour services environnementaux, c'est-à-dire l'entretien de la biodiversité, par exemple entretenir certains espaces pour pas qu'ils brûlent, comme ce qu'on voit en ce moment avec des incendies épouvantables dans les Monts d'Arrée, en Gironde, dans le Var, ailleurs. Faute d'entretien, tout brûle. Donc c'est l'excès de protection de biodiversité. Certains directeurs de parcs interdisent même l'entretien mécanique de ces espaces. Ils voudraient que tout soit entretenu à la main. Moralité, ça n'est pas fait. Et ça brûle. Et comme par hasard, le feu s'arrête là où les prairies sont pâturées. Ce qui veut dire qu'il faut conjuguer le maintien de l'environnement, de la biodiversité et l'entretien par la production agricole de ces espaces. Vous vous en souvenez aussi, dans l'Hérault, ce sont les vignes qui ont permis d'arrêter le feu qui courait dans les Cévennes. Donc je pense qu'il faut aborder les choses autrement, pas en termes d'opposition, mais en termes de compatibilité des activités, en pensant toujours que produire l'alimentation, c'est essentiel. Quand tous vos dossiers, quand tous vos journaux ouvrent sur le blé ukrainien qui enfin part par la mer Noire, ça veut dire que l'alimentation, c'est capital. La production que nous n'aurons pas en France à cause de cette sécheresse et faute d'irrigation, elle manquera aussi dans les rayons et ça sera des centimes en plus pour les consommateurs. Ça ne rend service à personne.
Vous pensez qu'on va devoir faire évoluer le type de culture qu'on a en France pour s'adapter au changement climatique? Est-ce qu'on va continuer, on va pouvoir continuer à produire du maïs en France qui nécessite beaucoup d'eau?
Bien sûr qu'on va continuer à produire du maïs parce que, bon, d'une part déjà, il s'en produit moins qu'il y a quelques années. D'autre part, les variétés ont changé. La sélection variétale permet d'avoir aujourd'hui des espèces qui nécessitent moins d'eau. Mais comme le dit l'hydrologue Vanek Andreassian, écoutez les scientifiques, interrogez-les, faites-les venir sur votre plateau, comme d'autres chaînes télé l'ont fait, pour des interviews longues où il vous expliquera qu'il est nécessaire d'avoir de la production de fourrage pour maintenir l'élevage. Est-ce que vous préférez qu'on arrête le maïs et qu'on importe la viande d'Amérique du Sud ? Et qu'on importe les porcs d'Espagne et d'ailleurs où ils irriguent. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, on importe de la paille de blé d'Espagne. L'Espagne irrigue à du blé et donc de la paille de blé. Et nous, en France, on n'irrigue pas et on importe la paille. Est-ce que c'est bien sérieux en termes d'empreinte carbone? Donc, non. Donc, c'est un raisonnement global qu'il faut avoir.
Avec la hausse des prix à la consommation, les rapports se sont tendus entre producteurs et distributeurs. Des relevés ont été effectués récemment par la DGCCRF dans des magasins avec des prix qui ont augmenté sur certains produits alors que des négociations n'avaient pas été entamées entre le distributeur et les producteurs.
Tout à fait. C'est ce que la FNSEA dénonce depuis déjà plusieurs mois. Les distributeurs jouent avec le feu. Les distributeurs ne respectent pas la loi alimentation. Ils voient que toutes les charges augmentent. Je vous ai donné les chiffres. Ils disent « l'Ukraine a bon dos. Je suis celui qui vend le moins cher. Venez chez moi, j'ai des produits à moins de 1 euro. » Ils cassent l'économie française. Ils cassent l'outil productif et l'industrie agroalimentaire et ils cassent l'agriculture française. J'entendais tout à l'heure sur RTL le patron de la BPI qui dit « il faut réindustrialiser la France. Nous avons perdu la production industrielle. » Parce qu'on a pensé qu'on pouvait acheter tout moins cher en Chine, les jouets, les vêtements, les chaussures, les composants électroniques, tout. Sauf qu'on est totalement démunis aujourd'hui. Eh bien, ne sacrifions pas l'agriculture pour des prix bas qui font plaisir sur l'instant, mais qui créent du chômage, de la perte d'activité et qui enlèvent de l'efficacité à notre pays. Donc moi, je défends l'agriculture française, l'industrie agroalimentaire française, et ça passe par des prix corrects. Et des distributeurs respectueux, ce n'est pas le cas aujourd'hui pour tous.
Mais vous pensez que les distributeurs ont des marges de manœuvre pour réduire leurs marges, justement?
Écoutez, ils ne sont pas transparents du tout sur leurs marges. Il y a d'ailleurs eu un rapport parlementaire, un à l'Assemblée nationale, un au Sénat, et le titre a été « L'arroseur arrosé », puisque le premier d'entre eux avait dit « il y a des marges cachées, un manque de transparence, les industriels ne nous disent pas tout ». Qu'ont dit les parlementaires? Ils ont dit non, il n'y a pas de marge cachée chez les industriels. Par contre, c'est très opaque chez les distributeurs. Et plusieurs d'entre eux se sont récemment fait alpaguer. J'ai plus d'exemples de distributeurs victimes d'amendes de la DGCCRF que d'industriels frappés par la DGCCRF. Donc il faut regarder les fautifs là où ils sont.
Christian Lambert, vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics?
Oui, parce que la loi alimentation a été votée, elle a même été corrigée sur la même mandature pour qu'elle soit efficace. Nous avons eu 17 réunions du comité de suivi des relations commerciales avec trois ministres engagés sur ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'avenir de l'agriculture française et du maintien de la production en France. Vous dites tous, on aime les agriculteurs, la France est belle parce qu'elle est cultivée partout, les Français aiment les agriculteurs. Mais les agriculteurs font un métier difficile, ingrat quand le climat n'est pas au rendez-vous comme cette année. C'est un métier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Je suis éleveuse, je sais de quoi je parle. Cette année, nous avons 50 hectares de maïs non irrigués, 20 hectares n'ont pas de valeur, pas de grains. Et sur les 30 hectares restants, nous allons avoir 50% de perte de rendement. Quand on voit tout ça, qu'on vit tout ça, et qu'on voit certains débats superficiels, polémiques, faussés par des affirmations tronquées, c'est révoltant. Donc moi, je veux que la vérité sur la transparence des pratiques de chacun et des marges des uns et des autres, mais surtout une solidarité nationale comme nous l'avons eu pendant le Covid. C'est la guerre, elle va durer, il y a des impacts. Vous avez vu les conséquences sur la farine, sur l'huile et sur différents produits. Je crois qu'il faut se serrer les coudes. Quand une exploitation agricole ferme ses portes, elle ne réouvre jamais. Une faillite en agriculture, ça ne renaît jamais. Donc pensons à cela. La sécurité alimentaire, ça a de la valeur. Si la France est belle et que les touristes partent beaucoup en France aujourd'hui, vont beaucoup au restaurant, plus que d'habitude, pour manger les bons produits français, il faut sauver l'agriculture française, il faut sauver le soldat agriculture, il est en danger aujourd'hui.
Merci beaucoup Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. À suivre dans un instant le journal de l'économie. Il est 8h30, on fait un nouveau point sur l'actualité économique avec Claire Sergent. Claire, on va parler du luxe et le groupe Richemont, propriétaire des marques notamment Cartier, Montblanc et Lancel. Il fait l'objet d'une pression de plus en plus forte de la part de fonds activistes.
Oui, le groupe suisse qui a refusé d'accueillir à son conseil un représentant du fonds Bluebell. Résultat, plusieurs autres fonds font pression pour un changement de stratégie et de gouvernance. Le français Kering, qui est intéressé, suit le dossier de très près, Mathieu Pechberti.
Le groupe Richemont est cerné de tous les côtés. Depuis un an, plusieurs fonds activistes sont entrés à son capital. D'abord, le géant américain Third Point, connu pour avoir secoué Nestlé et Shell. Puis Artisan et Bluebell, plus connu pour avoir renversé l'ancien patron de Danone, Emmanuel Faber. Cette fois, il cherche à faire sauter le verrou de Richemont. Son patron, Johan Rupert, contrôle 51% des droits de vote avec seulement 10% de son capital. Âgé de 72 ans, il n'a pas non plus de plan de succession et son fils ne semble pas disposé à prendre la suite. Les fonds activistes veulent remettre à plat la gouvernance et pousser à un rachat de Richemont. Le français Kering n'a jamais caché son intérêt et les investisseurs rêvent d'un mariage entre leurs marques phares Cartier et Gucci, mais Johan Rupert a déjà refusé une fusion avec le groupe de la famille Pinault. Les fonds activistes vont continuer à se battre pour s'imposer dans les instances de gouvernance de Richemont. Ils espèrent fédérer des grands investisseurs institutionnels lors de l'Assemblée Générale du groupe le 7 septembre à Genève.
Alors que le plan du L'urgence pour réduire la consommation de gaz en Europe entre en vigueur aujourd'hui. On voit déjà les conséquences inattendues de cette crise énergétique.
Et oui, comme en Allemagne, ce fleuron de l'industrie Heinz-Glas, né en 1622, un fabricant de flacons en verre qui fournit les grands groupes du parfum comme L'Oréal, eh bien, il risque aujourd'hui de mettre la clé sous la porte à cause de cette crise du gaz en Allemagne. Virginie Cook.
Ici, dans la vallée du Ver du Rheinsteig, Heinz-Glas fabrique des flacons depuis 400 ans. 13 générations se sont succédées à la tête de l'entreprise familiale qui a survécu à toutes les guerres. Mais aujourd'hui, elle est en danger. Pour façonner le million de flacons de verre qui sort chaque jour de ses usines, le groupe doit fondre les matières premières à 1600 degrés. Ces usines allemandes ont donc besoin massivement de gaz. Mais avec la guerre en Ukraine, les prix ont explosé, comme l'explique Murat Agak, le vice-président de l'entreprise.
Après le début du conflit en Ukraine, les prix du gaz ou de l'énergie ont parfois été multipliés par 10 par rapport à 2019, voire par 20, ce qui est très volatile mais beaucoup trop élevé et difficilement tenable économiquement.
Mais au-delà du prix exorbitant du gaz, une autre épée de Damoclès menace l'entreprise, l'arrêt total des livraisons du gaz russe. Heinz-Glas a investi dans une cuve de stockage de gaz liquéfié, mais l'approvisionnement coûtera 3 fois plus cher et ne suffira pas. Sur le long terme, l'entreprise souhaiterait convertir ses fours à l'électrique.
Mais pour cela, des investissements sont nécessaires. Dans notre cas, nous parlons d'environ 50 millions d'euros, ce que nous ne pouvons pas assumer seuls, ce n'est pas possible. Nous avons donc besoin du soutien du gouvernement fédéral et du gouvernement du Land.
Si Heinz-Glas n'obtient pas d'aide de l'État allemand, l'entreprise menace de délocaliser ses usines en Inde ou en Chine. 1500 emplois sont donc en jeu en Allemagne.
Des conséquences également sur d'autres ressources essentielles comme le lithium.
Et très recherché notamment pour les batteries automobiles. Le lithium voit ses prix flamber. La demande va continuer d'exploser avec la transition énergétique. Et ces tensions, elles risquent bien de durer pour une décennie au moins. Un géant américain du secteur Albemarle lance l'alerte. Valentin Grille.
Le patron d'Albemarle, Ken Masters, annonce 7 à 8 ans de marché tendu sur le lithium. L'américaine a rehaussé 3 fois ses prévisions de marché cette année grâce à la hausse des prix. La tonne se vend 358% plus cher qu'il y a un an. En cause, les exigences des constructeurs automobiles qui veulent sécuriser leurs approvisionnements. General Motors a récemment investi 200 millions de dollars aux États-Unis, comme BMW qui soutient la jeune pousse Lilac Solutions. Stellantis s'appuie depuis juin sur Vulcan, une start-up allemande. Mais le marché est structurellement contraint, les exploitations se concentrent sur 4 pays, le Chili, l'Australie, la Chine et l'Argentine. Les producteurs délivrent aussi en moyenne 25% de moins que leurs prévisions du fait de problèmes techniques. Le lancement de nouvelles mines est aussi long, de 6 à 19 ans. La demande en or blanc est donc bien plus certaine que l'offre pour les prochaines années. À l'inverse d'autres métaux comme le cobalt, le lithium entre dans la composition de tous les modèles de batterie. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale pourrait encore quadrupler d'ici à 2030.
Dans l'actualité financière, le mélangeur de crypto-monnaies Tornado Cash, lourdement sanctionné par le Trésor américain, il est accusé d'avoir blanchi pour plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle en 3 ans, notamment en lien avec la Corée du Nord. Dans le volet de sanctions, ça comprend le gel des avoirs aux États-Unis des personnes ou des entités ciblées dans cette affaire Tornado Cash, et il vise à empêcher toute transaction avec des ressortissants américains via ce mélangeur de crypto-monnaies.
Tiffany, de son côté, surfe sur la fièvre des NFT, les jetons non fongibles, et réalise une vente historique.
Ah oui, le joaillier américain, propriété du groupe LVMH, a lancé une offre exclusive, disponible aux détenteurs de crypto-monnaies, une enchère éclair, Charlotte Guerre.
20 minutes auront suffi à la maison Tiffany pour qu'elle écoule ses 250 pendentifs à un prix avoisinant les 50 000 dollars l'unité. Une vente privée, puisqu'elle n'était accessible qu'aux détenteurs de CryptoPunk, célèbre collection de NFT parmi les plus anciennes et les plus populaires du marché de l'art numérique. Cette série de pendentifs représente des personnages pixelisés uniques et chaque propriétaire en recevra également une version réelle, personnalisée avec son avatar, conçu en or 18 carats et certifié d'une trentaine de pierres précieuses. Tiffany compte bien poursuivre sur cette voie du web 3.0. Sur Twitter, le joaillier laisse déjà entrevoir la sortie d'un prochain bijou en actif numérique sur la blockchain. Une stratégie du groupe LVMH qui a lancé l'an dernier un consortium avec Prada et Cartier, depuis rejoint par Mercedes et le groupe vestimentaire italien OTB, une plateforme de blockchain qui permet aux clients d'authentifier n'importe quel produit de luxe. Une manière pour les marques de prestige de conquérir un nouveau marché.
À l'international, des nouvelles concernant les tensions militaires dans le détroit de Taïwan.
La Chine est accusée par le chef de la diplomatie de Taïwan d'utiliser ses manœuvres pour préparer une invasion de l'île. Taïwan qui réplique et entame cette nuit un exercice de défense à balles réelles. Un deuxième est prévu jeudi. Les deux entraînements vont impliquer le déploiement de plusieurs centaines de soldats et de près de 40 obusiers. Même si Taipei assure que tout était déjà programmé et qu'il ne s'agit pas d'une réponse directe aux manœuvres militaires de Pékin.
Et puis un mot de ce lancement réussi. La Chine a mis en orbite un satellite iranien d'observation.
Oui, il est parti donc il y a quelques minutes depuis la base russe de Baïkonour en Kazakhstan, à l'aide d'une fusée Soyouz. Alors ce satellite, il a officiellement pour mission de surveiller les frontières du pays, mais aussi d'améliorer la productivité agricole et de contrôler les ressources en eau. Les États-Unis sont très sceptiques. Ils y voient des fins militaires et suspectent Moscou de vouloir l'utiliser pour sa guerre en Ukraine.
Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure pour le journal de 9h. Les marchés financiers, il est 8h38. Avec Antoine Larigauderi, pendant que Claire est en train de tousser, de faire savoir à la terre entière. Antoine, rebonjour, on se dirige a priori vers une ouverture stable à la Bourse de Paris.
Bonjour. Oui, stable, sans doute conserver les 6500 points sera le premier objectif de la journée, mais on a de la petite consolidation dans l'air, étant donné qu'on a gagné 0,88% hier en clôture sur des volumes très faibles, hein, 2,3 milliards. Le tout dans un contexte qui va quand même être favorable, donc on peut parler de stabilisation et d'un attrait quand même toujours à court terme pour le marché action, vu qu'on a deux fronts qui sont en train de s'éclaircir un petit peu, déjà l'énergie, des prix des matières premières, notamment énergétiques, qui ont quand même bien consolidé sur ces derniers mois, matières premières industrielles aussi, mais c'est le cas du pétrole qui s'est bien installé sous les 100 dollars hein, pour le Brent de mer du Nord. À court terme, il y a un tout petit retournement de tendance, mais enfin, à plus long terme, on voit que les choses s'améliorent. 96,30 $ pour le Brent de mer du Nord et 90,40 $ pour le brut léger américain. Puis l'autre front qui a tendance à se détendre, c'est celui des taux d'intérêt avec des maturités 10 ans qui restent sous des points importants, notamment les 0,9% hein, pour la dette allemande. allemande à 10 ans, 1,45 pour la dette française et sous les 2,8% pour la dette américaine. Donc un contexte un petit peu plus favorable pour les actions, un marché calme. Demain, ça risque de s'activer avec les chiffres de l'inflation aux États-Unis, en Allemagne et également du côté de la Chine. Mais dans l'attente, on va avoir un marché relativement stable et relativement optimiste.
Merci Antoine. Tout à l'heure, vous m'avez mis un énorme vent avec mon histoire de chaussures en peau de poisson. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que vous avez déjà demandé une avance sur salaire ?
Ah non, jamais, tiens.
Jamais. Une question, justement. Est-ce qu'une entreprise peut refuser le versement d'un acompte ou d'une avance sur salaire quand elle est réclamée par un salarié ? Eh bien, écoutez la réponse de Thomas Schnell.
Good morning business, BFM Business avec vous.
Un employeur nous écoute beaucoup sur BFM Business et il se demande si son salarié a le droit de lui demander systématiquement une avance sur salaire. Est-ce qu'il peut refuser ? Alors, il faut savoir qu'il y a deux notions juridiques que l'on confond souvent. Il y a d'abord l'avance sur salaire et l'acompte. L'avance sur salaire, c'est une situation où on demande le paiement anticipé d'un travail qui n'a pas encore été effectué. C'est comme si on demandait le 31 juillet d'être payé pour le mois d'août. Là, l'employeur peut refuser. Il n'y a aucune obligation. En revanche, l'acompte, c'est de demander le versement anticipé d'une somme qui correspond à un travail déjà effectué. Le Code du travail dit qu'à partir du 15 de chaque mois, eh bien, le salarié peut demander le versement de la première partie de la rémunération du mois. Là, c'est une obligation pour l'employeur.
Tout autre sujet à présent. S'offrir une résidence secondaire, ce n'est pas toujours à la portée de tous les budgets. Pourtant, il existe des solutions, notamment en se regroupant avec d'autres acheteurs. Marie-Cœur de Roy.
C'est l'étape ultime de la démocratisation de la résidence secondaire. Acheter à plusieurs ce qu'on n'aurait pas pu acheter tout seul parmi les entreprises spécialisées sur ce créneau, Prélo. Et elle se charge de tout, trouver le bien idéal, le diviser en 8 parts égales et trouver évidemment les copropriétaires. Ils pourront acheter une ou plusieurs de ces parts et cette part ou ces parts donnent droit à des jours d'occupation, 44 nuitées par an chez Prélo. Pour le partage des jours d'occupation, c'est un algorithme qui se charge de rendre la chose la plus juste possible. L'autre avantage, c'est que les plateformes vont rentabiliser les biens même quand aucun copropriétaire ne l'occupe. Il est mis à la location saisonnière et les copropriétaires se partagent les gains. Notez que tous les services de Prélo ont évidemment un coût. Recherche du bien, montage financier, entretien, ménage, gardiennage, conciergerie. Vous en aurez pour une centaine d'euros par mois par copropriétaire. Sur le papier, ça peut paraître coûteux et compliqué. Les plateformes le reconnaissent, mais il y a systématiquement un intérêt lorsqu'il s'agit des zones les plus touristiques. Ça rend les rêves accessibles. Récemment encore, le site Prélo proposait de devenir propriétaire d'une villa de 250 mètres carrés. On est à Bormes-les-Mimosas avec une piscine et on était à seulement 277 000 euros la part.
De l'huile de friture pour partir en vacances, ce sera bientôt possible de faire fonctionner des moteurs d'avion grâce à de l'huile à la place ou en partie en complément du kérosène. On vous explique tout ça après la pause avec Frédéric Simotel et Anthony Morel.
BFM Business, les chroniques de l'été, Culture Geek, Frédéric Simotel, Anthony Morel.
Salut Fred. Salut Anthony. Bon, on part en voyage, on part en avion, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de gens maintenant qui se sentent coupables de prendre l'avion. Ça pollue évidemment, et tu nous dis que ce sera peut-être un peu moins le cas dans les années qui viennent parce que on voyagera dans des avions dont les moteurs fonctionneront avec de l'huile de friture.
Ouais, si vous faites des frites, ben, conservez bien cette huile, ça pourra servir. C'est vrai que quand on voit le rapport du GIEC, hein, qui nous dit, voilà, on consomme beaucoup trop et puis le secteur du transport doit vraiment faire de gros efforts, et puis on a parfois un peu de scrupules à prendre l'avion. Et donc, tous les avionneurs, hein, ils sont tous en train de réfléchir à de nouveaux biocarburants, notamment l'huile de friture. Et ces biocarburants, c'est important parce que ça permet d'économiser, enfin, c'est 80% des émissions de gaz en moins que du kérosène habituel. Donc, ça vaut le coup quand même de faire des recherches autour de tout ça. Airbus a déjà fait voler un avion entre Toulouse et Nice. Ils ont fait d'autres expérimentations avec un A350, un A319neo. Et faire voler un avion à la friture, bah on imagine, voilà, on est vraiment dans l'axe du GIEC neutralité carbone pour 2050. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va garder le même moteur. Donc il y a quand même c'est quand même plutôt pas mal. Enfin, cette huile de friture, elle va être conservée, elle va être utilisée pour tout, pour des déchets, et justement là.
Donc en fait, on l'aurait jeté de toute façon. Donc si on peut s'en servir, c'est aussi bien. Mais enfin, excuse-moi, c'est peut-être une question naïve, mais il va falloir quand même manger beaucoup, beaucoup, beaucoup de frites pour alimenter tout le trafic mondial.
Oui, c'est pour ça que alimenter, changer tout le kérosène, c'est évidemment un peu totalement irréaliste. C'est une technologie intéressante sur le papier, mais déjà il y a le prix. Le prix, c'est 4 à 5 fois plus cher que le kérosène classique. Et puis la quantité qu'on peut produire, comme tu l'as dit, on va pas aller faire le tour de tous les restaurants. On imagine la logistique pour aller rechercher toute cette huile de friture. Mais on estime quand même que d'ici à 2025, on produira 1 à 3 milliards de litres de biokérosène, ce qui correspond quand même à 1% de la consommation mondiale. On va essayer d'avancer comme ça, 1%, 2%, 5%, ouais, pour aller vraiment vers cette neutralité carbone. En tout cas, tout ça, ça s'appelle les Sustainable Aviation Fuel. Donc, il y a vraiment une forte recherche dans ce domaine.
Oui, et c'est intéressant parce que, comme tu le dis, ça va être 1%, 2%, 5%. Ça ne va pas tout remplacer, non, mais cumulé à d'autres solutions, ça pourrait être très intéressant. Et il y a une autre solution dont on parle beaucoup, c'est l'avion à hydrogène.
C'est l'avion à hydrogène. Moi, j'y crois beaucoup. J'y crois plus. Je crois aux camions à hydrogène et aux avions à hydrogène. Alors, bien sûr, c'est pas pour un A380. C'est pour des avions des petits porteurs. Mais on voit beaucoup, beaucoup de choses qui... Et alors là, il faut tout changer dans l'avion. Il faut changer le moteur parce que, voilà, c'est une autre technologie. Il faut changer aussi la façon dont on va stocker cet hydrogène quand on va s'envoler. Aujourd'hui, voilà, le kérosène, on le met dans les ailes.
On voit des concepts derrière toi, voilà, qui sont incroyables.
Là, il faut 4 fois plus de réservoirs pour stocker cet hydrogène. Et puis, mais en tout cas, voilà, l'importance de développer un peu tous ces éléments qui, mis bout à bout, eh bien, on aura, selon les distances, selon l'usage de l'avion, eh bien, on aura cette huile de friture, on aura d'autres biocarburants ou alors ces avions à hydrogène.
Eh bien, merci pour toutes ces solutions, Fred. On est prêt à décoller. À plus tard.
BFM Business, les chroniques de l'été.
Devrons-nous travailler davantage, plus d'heures, plus d'années avant la retraite? C'est le débat de ce mardi avec Nicolas Dose et ses acolytes.
Bonjour et bienvenue autour des 10 marqueurs du monde d'après. Marqueur numéro 6, travailler plus sinon rien. Là, je réponds oui. On n'a pas un problème de demande, on a un problème d'offre. Vous m'arrêtez, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Lechypre, si vous n'êtes pas d'accord. On ne doit pas consommer plus, mais il faut qu'on produise plus. Le temps de travail par habitant en France est l'un des plus bas des pays de l'OCDE. On a l'un des âges de départ à la retraite les plus précoces. On a un taux d'emploi qui mériterait d'être 10 points au-dessus de ce qu'il est aujourd'hui. On est à 67%. On n'a jamais vu un taux de chômage en dessous de 7% depuis 40 ans. Et quand on faisait les 35 heures, les Allemands faisaient les lois Hartz. Alors je dis oui, effectivement, il faut travailler plus. Il faut faire travailler plus de monde et il faut travailler plus longtemps tout au long de la vie. Qui oserait me contredire autour de cette table, Jean-Marc Daniel, Emmanuel Lechypre?
Bah, on vous contredira tellement peu qu'on se demande bien pourquoi on considère que c'est un marqueur du monde d'après. C'est un marqueur du monde de toujours. Franchement, c'est quelque chose.
Mais on s'en sort pas, Emmanuel, de ce sujet. Mais oui, chaque fois qu'on parle de temps de travail, les gens imaginent 35 heures.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on découvre pas ça avec la crise. Et là encore, c'est un phénomène plutôt français. Bah oui, enfin, je veux dire, il y a un moment où si vous ne créez pas d'activité supplémentaire, que vous ne créez pas de richesse supplémentaire, oui, effectivement, vous ne résolvez aucun de vos problèmes. Et notamment si demain on veut avoir les moyens de payer notre dette, je ne vois pas comment on pourra être crédible sur notre capacité à rembourser notre dette si on n'augmente pas année après année notre croissance potentielle d'un dixième de point qu'on ira arracher chaque année avec des gens qui travaillent plus. On est dans un monde où quand même je ne sais pas quel est le point de vue de Jean-Marc là-dessus. Il me semble qu'on était assez d'accord sur les gains de productivité assez limités finalement générés par la révolution digitale. Donc il y a pas de secret. Si vous voulez créer plus de richesses, il faut augmenter votre croissance potentielle. C'est deux choses, c'est la productivité et c'est la main-d'œuvre. Si la productivité n'est pas fondamentalement en hausse, et on voit bien que sur les dernières années, elle ne l'est pas, qu'en France, on est à 1% depuis très longtemps,
il n'y a pas
à tortiller. Il faut augmenter tout simplement la quantité de travail. Oui. Donc oui, venant en plus dans un pays où on travaille beaucoup moins qu'ailleurs, vous l'avez dit, le vrai marqueur, c'est le nombre d'heures travaillées par habitant et par an, et le taux d'emploi, et là, on voit bien qu'on est très en retard.
Fabien Roussel, il avait quand même bien tranché le sujet pendant la campagne présidentielle. Il avait dit, vous voulez du pouvoir d'achat, faut bosser. Et je sais pas, j'ai trouvé que cette formule était... Mais vous allez me dire que c'est pas le monde...
Mais ce Fabien Roussel est la pure réincarnation de Maurice Thorez, dont Jean-Marc va nous citer quelques passages brillants sur l'encouragement à travailler.
Absolument.
Mais bon, là, effectivement, sur ce sujet, on sera probablement...
Rappelez-nous, Jean-Marc, là, qu'est-ce qu'il avait dit, Maurice Thorez?
Il faut produire d'abord, revendiquer ensuite. Oui. En 1944.
Alors, je suis d'accord que c'est pas propre au monde d'après, mais on profite de ces débats de l'été pour rappeler quelque chose qui a besoin d'être rappelé, éternellement réexpliqué. Jean-Marc?
Oui, le grand enjeu, effectivement, c'est la croissance potentielle. Et la croissance potentielle, Emmanuel l'a dit, c'est des gains de productivité et de la quantité de travail. De la qualité et de la quantité de travail. Si la qualité n'est pas au rendez-vous, la quantité, effectivement, doit se substituer. Sinon, on va vers un appauvrissement. Paul Krugman l'avait dit, parlant de la France, la France, finalement, c'est le choix d'une certaine forme de loisir, une certaine forme de bien-être au travers de la réduction du temps de travail avec en conséquence une réduction de la richesse.
C'est vrai, hein.
Enfin, c'est... Mais il disait c'est un choix de la société.
Oui, le ministère du temps libre.
Voilà. Et, mais sauf que c'est faux. Les Français, ils veulent à la fois du pouvoir d'achat et ils veulent à la fois du temps libre. On peut pas avoir
toujours
les deux.
Plus, n'est-ce pas?
Toujours
on
plus.
On va citer François de Clauset.
Oui, une nouvelle fois. Oui, on va revenir à François de Clauset. Donc, alors, en revanche, dans le monde de demain, la vraie question, c'est pourquoi la productivité n'est pas au rendez-vous. On est dans
évolution. J'ai du mal, hein, oui. à argumenter le sujet.
Voilà. On est revenu à des évolutions annuelles de productivité des années 1820. Et donc, il y a eu un...
1820
de... Oui, absolument. Il y a un groupe de travail qui avait été réuni à la demande du président de la République, sous la présidence de Philippe Martin, et la conclusion avait été particulièrement intéressante, puisqu'ils avaient dit « c'est un mystère ». À partir du moment où c'est un mystère, ça veut dire que finalement, il n'y a pas de raison économique clairement identifiée autre que la confiance en l'innovation. Voilà. Est-ce que l'innovation va nous sauver? L'innovation, c'est majeur, mais ça ne se décrète pas.
Alors, il y a quand même, enfin, je pense qu'il y a quand même un problème de mesure. C'est-à-dire.
De mesure de quoi?
De la productivité. C'est-à-dire que c'est facile.
Il y a un débat, hein, entre économie et productivité.
Comme il y en a un sur le déficit structurel et toutes ces questions-là.
C'est quand même beaucoup plus facile quand on mesure la productivité dans l'industrie, dans une économie de service. C'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Donc, peut-être qu'on les sous-estime un peu. Les gains de productivité, mais ça n'empêche que effectivement, ça ne nous dispense pas de travailler plus, puisque alors là, on va pas trancher ce fameux débat. Ah oui, mais parce que c'est toujours la même chose. Quand on vous dit il faut travailler plus, et alors ceux qui sont contre vous disent ah oui, mais les Français sont les plus productifs. Je vous ferai l'économie de ce débat.
J'ai entendu mille fois. On a des bons rameurs, mais on n'a pas assez de rameurs. Enfin voilà, c'est ça le sujet.
C'est à peu près ça.
Il faut plus de monde. On va être très concret, Jean-Marc Daniel. Travailler plus aujourd'hui, 2022-2023, quand on en parle au niveau politique, ça veut dire qu'on réforme les retraites. Alors c'est ça l'outil quand même.
Hein. Oh, oui, il y a que trois moyens de travailler plus. On réforme les retraites pour mobiliser la population entre 62, 65 ou 67 ans. On supprime des jours de congé. Et donc, dans les années 70, ce qui sont être le marqueur de ces marqueurs, dans les années 70, le président Giscard d'Estaing avait supprimé le 8 mai comme jour de congé, et puis ensuite, vous vous souvenez que Jean-Pierre Raffarin avait supprimé le lundi de Pentecôte.
Qui s'est réinvité.
Les deux sont toujours là, sont rentrés. Donc, il faut une action un peu déterminée pour y parvenir. Et puis, il y a l'évolution qui est liée aux 35 heures. Et donc,
on n'y touchera pas.
On n'y touchera pas, mais on a des quand même au stade où l'actuel gouvernement, en tout cas la majorité sortante qui a été plus ou moins reconduite, avait essayé au travers d'une loi d'obliger les gens à travailler 35 heures. C'est-à-dire que non seulement de descendre de 39 à 35, mais de remonter dans certaines activités à 35 heures. Et donc si on ne touche pas aux 35 heures, mais si au moins on mettait à 35 heures un certain nombre de gens, ce serait un peu...
Enfin, il faut rappeler que l'enjeu principal, c'est quand même pas forcément de faire travailler plus les gens qui ont déjà un travail, c'est de faire travailler beaucoup plus de monde.
Oui. Je rappelle qu'on a quand même 7,3% de chômage.
Donc oui. Sachant que la grande erreur, c'est de croire que de réduire la durée du temps de travail de ceux qui ont un emploi permet d'embaucher les
gens. Ça c'est bon, on va pas.
C'est comme les camions.
630 heures par an et par habitant en France. C'est la plus faible de l'OCDE, on est à 722 heures par an et par habitant en Allemagne. Prochain marqueur du monde d'après, les gagnants et les perdants de ce monde d'après.
BFM Business, les chroniques de l'été.
8h57, c'est la fin de cette émission sur RMC Découverte. Good Morning Business continue dans un instant sur BFM Business.